Europe 1. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Historiquement Vôtre que je suis ravi de présenter avec cet Olibrius Helvète qui aime à me taquiner. Oh là là, mais enfin j'aime bien ça, qui aime bien châtier bien. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour, vous taquinez moi jamais. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On doit, je crois, la vérité à nos auditeurs après tant d'émissions, on peut leur avouer, nous sommes très complices.
Et pas colis.
Et pas colis. Comment ça pas colis? Non, mon Dieu, je sens qu'on dérape. Vite pas Stéphane, recentrons-nous sur le thème du jour, le point commun qui réunit nos trois personnages. Stéphane, s'il vous plaît.
Comme vous, Mathieu, quand vous isolez des sons pour les sortir de leur contexte et me faire dire n'importe quoi, ils ont l'amour du risque.
L'amour du risque, c'est la passion explosive, la mort, le feu de l'éclair.
On adore ce générique. À commencer par un champion de cyclisme italien. Gino Bartali, qui a pris des risques pour remporter des courses, mais pas seulement, vous verrez. Si on parle de lui aujourd'hui, c'est que les risques pris pendant la guerre sont plus grands qu'on ne peut le penser. Puis je vous raconte, celui qui a pris des risques toute sa vie, c'était son métier, mais des risques toujours calculés, selon lui, le cascadeur Rémi Julienne et ses cascades entrées à jamais dans l'histoire du cinéma. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait, à 99% vrai, d'un amoureux du risque qu'il a payé cher, très cher. Bon, il paye encore.
Oui, sa cagnotte Litchi, à lui, se remplit moins vite que celle de Valérie Pécresse. Aujourd'hui, je vous raconte la folle histoire de celui qui devait normalement rembourser 4,9 milliards d'euros à la Société Générale. Vous allez voir que ça a été un peu réduit depuis, hein, mais le trader qui ne l'est plus, Jérôme Kerviel.
Et avec nous, comme chaque jour, ils me doivent aussi de l'argent, mais je passe l'éponge, ce sont...
Combien il y a exactement?
Oh là, on ne compte plus. Ce sont nos chroniqueurs. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Eh bien oui, justement, je vais vous parler d'une femme qui cherchait de l'argent partout. Elle s'appelait Annie Edson Taylor. C'était une veuve, institutrice à la retraite de 60 ans. Elle était un peu fauchée. Alors, elle espérait mettre du beurre dans les épinards en étant la première personne au monde à franchir les chutes de Niagara dans un baril de cornichons.
C'était en 19... Mais qui était le cornichon dans l'histoire?
C'était en 1901.
Elle a réussi?
Suspense,
il faut rester avec nous. Également avec nous, Stéphane, l'inimitable David Castello-Lopez qui remonte pour nous aux origines de ce qui fait notre quotidien.
Oui, surtout le vôtre.
Alors surtout le mien, évidemment, puisque je joue chaque week-end, comme chacun sait, au football. Le ballon de foot noir et blanc.
Oui, c'est pas n'importe quel. Enfin, oui, je vous raconterai bien sûr l'histoire du ballon de foot, mais c'était plus spécifiquement celui
pourquoi
qu'on a en
blanc,
tête et qui est celui d'Olive et Tom, par exemple. Ah. Vous voyez.
Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier,
sont super entraînés. Stéphane, je sens un décalage générationnel.
Ah, là, là, là,
je sens le vide dans votre regard.
Rien.
On avait 6 ans quand on regardait Olive et Tom.
Oui. Qu'est-ce que c'était, un dessin
animé? Dessin animé de football japonais.
Ridicule de football japonais où il courait sur des terrains. Le terrain, on avait l'impression qu'il faisait 10
oui,
hectares.
Et il était
convaincu parce qu'il était
confiant de la terre.
J'ai l'impression qu'on est entré dans leur chambre d'enfant.
Présentons plutôt Olivier Pouls,
oui, qui remonte pas aux origines d'un plat, d'un mets, alors pour le coup, très à la mode.
Oui.
Maintenant, on ne peut plus. Du boulgour, c'est un peu comme le...
Oui. Vous
on
imaginez, il y a,
si,
y a 15
ça.
Ans, personne ne savait ce que c'était.
Exactement.
Et aujourd'hui, le boulgour, il y en a partout.
Oui. Ouais.
D'où nous vient ce boulgour et pourquoi surtout on s'est mis à l'aimer, à lui trouver toutes les vertus possibles, imaginables, et à le cuisiner sous toutes ses formes.
C'est comme le quinoa.
Ah non, le quinoa, c'est pire. C'est pire
le
que
quinoa,
le
quinoa, c'est plus récent,
pense.
C'est la dernière vague.
Ah, et le quinoa, je crois que c'est encore après le boulgour.
Dans les graines de chia, je crois que c'est encore pire.
C'est encore pire. Et David, caloriquement, qu'est-ce qui est le mieux? Le boulgour, les graines de chia, le quinoa?
Ah, le boulgour, quinoa, riz, pâtes, c'est exactement la même chose.
Ah non,
c'est aux alentours de 380 calories.
Alors attention, mais après, il y a l'indice glycémique. Et l'indice glycémique
en termes
du boulgour
de calories,
est très bas, donc dans le cadre d'un régime, vous pouvez y aller, vous pouvez manger du boulgour.
Comme quoi, vous connaissez mieux Olive et Tom que les indices glycémiques.
Moi, c'est les calories.
L'indice glycémique du riz et des pâtes est beaucoup plus haut.
Ah oui, d'accord.
Et puis nous jouerons dans cette émission, comme chaque jour, à Burn to be Alive, ce fabuleux quiz qui permet de découvrir, de vérifier, les compétences de Stéphane en histoire face à Clémentine. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
C'est quelqu'un qui a enfilé deux maillots.
Oui, mais des gens disent que c'est pas bien.
Non, mais pas deux maillots comme vous l'imaginez, Stéphane. Celui de coureur cycliste et celui de héros de guerre, grâce à son vélo, justement. Un épisode resté secret de longues années. Stéphane Bern appuie sur la pédale et nous dévoile Gino Bartali.
Nous sommes le 15 juillet 1948 à Cannes, dans le sud de la France. La ville théâtre, ce jour-là du départ de la 13e étape du Tour de France, est en ébullition. 274 km de montagne et le passage de plusieurs cols réputés difficiles attendent les coureurs jusqu'à Briançon. Sur la ligne de départ, le maillot jaune est sur les épaules d'un certain Louison Bobet, 23 ans, grand espoir du cyclisme français. Sur les quelques 2800 km déjà parcourus depuis Paris, le jeune Breton a encore une fois prouvé son incroyable potentiel. Mais il est jeune, très jeune. Et parmi ceux qui prennent le départ ce jour-là, il y a un vieux lion qui compte bien en découdre. Lui a 33 ans, presque 34 même, un âge déjà avancé pour son sport. En Italie, on commence même à le surnommer Gino il Vecchio, Gino le Vieux, rapport à sa longévité sportive. Son véritable nom, c'est Gino Bartali, une immense star du cyclisme italien, vous l'avez compris. Le Tour de France, il l'a déjà remporté une fois. C'était avant la guerre, en 1938. Le reste de son palmarès n'est pas moins impressionnant. Deux victoires consécutives au Giro d'Italia en 1936 et 1937, puis encore une fois, deux ans plus tôt, en 1946. Car oui, malgré son âge, Bartali a fait un retour en force sur la scène du cyclisme d'après-guerre. Une victoire au mythique Milan-San Remo en 1947, et deux au Tour de Suisse cette même année et la précédente aussi. Mais sur ce Tour de France 1948, il faut avouer que Gino Bartali est un peu à la traîne. Au départ de Cannes, ce jour-là, il est seulement 8e au classement avec un retard de 21 minutes et 28 secondes sur le leader. Autant dire une éternité. Surtout face à de jeunes prodiges comme Louison Bobet. Qu'à cela ne tienne, Gino Bartali est un homme qui croit au miracle. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme aussi Gino il Pio, Gino le Pieux. D'ailleurs, accroché à son vélo, il y a toujours une médaille de la Madone, preuve de son indéfectible foi catholique. Non, Bartali n'est pas homme à baisser les bras, ni les jambes, et surtout ce jour-là, surtout pas alors que son pays a besoin de lui, besoin d'une victoire. Quelques jours plus tôt, un attentat contre le leader du Parti communiste a mis l'Italie à feu et à sang. À tel point que la veille, Gino Bartali a reçu un coup de fil de la plus haute importance. Le président du Conseil italien en personne l'aurait imploré de tout faire pour remporter la compétition. Pourquoi ? Eh bien parce que le cyclisme en Italie, c'est sacré. Une victoire au Tour de France aurait le pouvoir d'apaiser les manifestations. C'est donc certainement à cela que Bartali pense sur la ligne de départ. Oh, du haut de son 1m71 et de ses 64 kilos, il n'a pas l'air bien menaçant. Mais attention, les apparences sont trompeuses. C'est une véritable machine de course, quasi inhumain. Son cœur, en temps normal, ne bat qu'à 34 pulsations par minute. Il ne s'approche du rythme cardiaque habituel d'un individu lambda au repos que lorsqu'il est en plein effort. Ce qui fait de lui, voyez-vous Mathieu, un grimpeur redoutable. Cette amorce des Alpes en ce 15 juillet 1948 est donc une aubaine pour le coureur. Sa motivation est immense. Il ne ménage aucun effort, pédale plus fort, plus vite encore. Bartali prend tous les risques pour arriver premier, pour rattraper son retard. Et l'effort paye. Bartali remporte cette 13e étape en solitaire et avec brio.
Brio qui n'est pas un autre coureur italien, Stéphane, comme vous sembliez le croire tout à l'heure quand on a fait les répétitions.
Bon, je ne relève même pas, Mathieu. Son retard, Bartali l'a littéralement oblitéré. Sur les 21 minutes, il n'en reste qu'une seule et ce n'est que le début. Il remporte ensuite 3 des 8 dernières étapes avant la capitale. Briançon, Aix-les-Bains, Aix-les-Bains-Lausanne, Metz-Liège. À son arrivée à Paris, son avance est à peine croyable. 26 minutes et 16 secondes, presque un miracle. En France, la foule ovationne l'Italien à tout rompre. On en oublierait presque les rancunes d'après-guerre. Quant à l'Italie, vous l'imaginez, elle est en liesse. Oubliez la politique, les manifestations s'apaisent. Tout cela grâce au grand Gino Bartali. Ah, le pouvoir du sport et surtout du vélo. En Italie, on vénère les champions nationaux. Dans ce pays rural, la bicyclette est un symbole fort, un emblème de liberté, le seul moyen pour beaucoup d'aller travailler. Il fait partie du patrimoine national au même titre que la Joconde de Léonard, la coupole de Saint-Pierre ou la Divine Comédie, ironise même le célèbre écrivain et diplomate Curzio Malaparte. C'est dire. Alors forcément, le petit Gino n'a pas échappé à cette fièvre du vélo. Né dans un faubourg de Florence en juillet 1914, il a rêvé dès sa plus tendre enfance de posséder une bicyclette. Fils d'artisan, n'ayant eu comme éducation que celle qu'il a reçue à l'école primaire, Gino a très jeune dû travailler pour aider sa famille. Embauché comme apprenti mécanicien chez le réparateur de bicyclettes du village, il s'achète son premier vélo à 12 ans et pédale dès qu'il le peut. Ce qui n'est au départ qu'un passe-temps devient vite une passion dévorante. À 16 ans, encouragé par son patron, il gagne sa première course. Puis les victoires s'enchaînent au point qu'il devient coureur professionnel dès 1934 et intègre la prestigieuse équipe Legnano 2 ans plus tard à seulement 22 ans. Pour lui, le vélo, c'est toute sa vie. Il bichonne ses engins comme des enfants, allant jusqu'à les baigner dans la même baignoire que lui. Mieux que personne, Gino comprend l'amour du vélo et donc, mieux que personne, il a compris la nécessité de sa victoire au Tour de France en juillet 1948. Quand on le remerciera de cette prouesse modeste, il répondra qu'il n'a fait que son devoir de citoyen. Le devoir, personne ne le soupçonne à l'époque. Mais Gino Bartali en a un sens aigu, très aigu même. Ce n'est pas la première fois qu'il se sert de son vélo et prend tous les risques pour faire ce qui lui semble juste. Non, ce n'est pas la première, ni d'ailleurs la plus périlleuse et la plus extraordinaire.
Historiquement Vôtre vient dans moins d'une minute sur Europe 1 avec un grimpeur que rien ne semble arrêter.
Oh, je t'en prie Mathieu.
Non, mais je ne parle pas de vous, Stéphane, mais de Gino Bartali, un cycliste italien qui fait la course en tête pour le plus grand bonheur de son pays après-guerre. Dont vous nous racontez le destin cet après-midi, Stéphane.
Ah oui, lui, oui. Grimpeur. Grand grimpeur, mais très très grand grimpeur.
Grimpez mieux.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement ils ont l'amour du risque, c'est le point commun de nos personnages cet après-midi dans Historiquement Vôtre. Et on parle de Gino Bartali, grand coureur cycliste italien, et de son incroyable victoire au Tour de France 1948, la seconde de sa carrière. Une victoire qui, vous nous disiez Stéphane, a eu pour effet d'apaiser les tensions politiques à vif en Italie cette année-là. Gino Bartali avait le sens du devoir, du service rendu à la patrie, mais ce n'est pas le seul qu'il a rendu à l'Italie, il en a rendu un autre, beaucoup plus périlleux, disiez-vous.
En 1944, l'Italie est divisée en deux. Les alliés au sud, l'occupation allemande au nord, sous l'égide de la République de Salo et de Benito Mussolini. Persécutés, déportés, les juifs italiens se cachent et tentent tant bien que mal de fuir le pays. En Toscane, un réseau de résistance leur vient en aide, faisant notamment de faux papiers ces âmes nécessaires à leur fuite. Sur les routes vallonnées de la région, le coureur cycliste Gino Bartali, alors tout juste trentenaire malgré la guerre, continue de s'entraîner. C'est certes une star, mais il n'échappe pas aux nombreux checkpoints qui jalonnent les routes. Lorsque les soldats le contrôlent, il est vrai que la discussion s'oriente parfois plus sur ses exploits sportifs que sur les raisons de ses alliés venus. Alors Bartali se laisse aller à la confidence et leur raconte bien volontiers ses prouesses. Mais quand, par mégarde, l'un d'eux s'aventure à toucher son vélo, il leur rétorque de faire attention qu'il s'agit d'une machine de course réglée au millimètre. Et les soldats embarrassés n'ose pas insister. En réalité, si Bartali ne veut pas qu'on touche à sa bicyclette, c'est surtout pour une autre raison. Dans les cylindres creux de son châssis, juste sous sa selle, Gino cache des faux papiers qu'il livre là où la résistance le lui demande. S'il venait à être découvert, les conséquences seraient terribles pour lui, et peut-être même pour sa femme et son fils. Pour plus de sécurité, il les laisse dans l'ignorance. Il ne leur en parlera d'ailleurs jamais vraiment, même après la guerre. À ce sujet, le grand Gino Bartali restera toute sa vie durant extrêmement discret. Le secret ne sera ébruité que 4 ans après sa mort, en 2004, à la faveur d'un mémoire de recherche sur sa vie. Oui, Gino Bartali, le dieu vivant du vélo, était aussi un héros de la guerre, un facteur de la liberté dont les missions auraient sauvé environ 800 juifs de la déportation. À titre posthume, ses révélations lui valent de nombreuses distinctions, dont le rang de juste parmi les nations accordé par l'État d'Israël. Elles lui vaudront aussi beaucoup d'articles dans la presse, des livres, un film, une BD. Depuis l'an dernier, toutefois, une vive polémique fait rage en Italie. Des historiens remettent en cause la véracité de cette histoire. Et si Gino Bartali n'avait jamais parlé de cet épisode durant sa vie, tout simplement parce qu'il n'avait jamais eu lieu. C'est désormais aux historiens de trancher.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Gino Bartali, nous avons le plaisir, Stéphane, d'accueillir un journaliste qui lui a consacré un livre. Bonjour Alberto Toscano.
Bonjour.
Bonjour Alberto Toscano, vous êtes correspondant en France pour la presse italienne et vous êtes l'auteur d'Un vélo contre la barbarie nazie qui relate l'incroyable destin de ce champion Gino Bartali paru aux éditions Armand Collin. Vous écrivez que la vie de Bartali est si extraordinaire qu'elle semble parfois imaginaire. Pour vous, c'est un véritable héros?
Oui. Et c'est un héros à double titre, comme vous venez de dire très justement. D'un côté, un héros du sport. Et le sport est important dans notre vie sociale et aussi politique, comme notre histoire nous montre, et vous le savez mieux que moi. Et aussi un héros, évidemment, pour la grande histoire. Parce que cette polémique dont vous venez de parler est une polémique, à mon avis, qui n'a pas de sens. Gino Bartali n'a jamais parlé de ça. Et son rôle dans la grande histoire est un rôle comme un petit engrenage d'une grande machine. C'est la machine de la résistance, c'est la machine de la solidarité. C'est une grande machine qui, dans l'Italie centrale, dans les années 43-44, a permis de sauver des centaines, voire des milliers de vies humaines.
Ce que montre l'histoire de Gino Bartali, c'est que les enjeux politiques du sport sont bien réels. Vous expliquez que Mussolini a tenté à maintes reprises de faire du champion Bartali un représentant du régime fasciste. Il a toujours refusé, il a jamais craint les représailles?
Jamais, dans le sens qu'il n'avait aucun intérêt, il ne recevait rien du régime, dont il n'avait rien à donner au régime. Et quand en 1938, il gagne son premier Tour de France, évidemment, le régime essaie de profiter de son rôle, de son exploit, pour montrer la supériorité de ce qu'on appelait la race aryenne. Et c'était l'année des lois raciales, l'année 1938, pour le fascisme. Gino Bartali refuse même de faire le salut fasciste. Et il y a deux épisodes très significatifs en France, à Paris, dans cette année 1938. Tout d'abord, l'équipe de football italienne gagne la finale de la Coupe du Monde au stade de Colombe et devant les photographes, les caméramans, ils font tous le salut romain, le salut fasciste. Gino Bartali, quelques semaines plus tard, gagne le Tour de France et il se signe. Et le fait de refuser de faire le salut fasciste et de se signer signifie quelque part afficher Gino il Pio, Gino le Pio, sa foi catholique, mais la religion catholique, l'Église, à ce moment en Italie, est la seule alternative au fascisme, oui. Parce que les autres, la gauche, les oppositeurs sont en exil, sont en prison. Donc, ce signe religieux a aussi une profonde signification politique.
Il y a une symbolique, mais est-ce qu'au-delà, est-ce que sa foi catholique, c'est la seule raison pour laquelle il s'oppose au fascisme ou il y a d'autres raisons?
Il y a d'autres raisons. Et Gino Bartali déteste l'arrogance. Il le dit à sa famille. C'est un homme simple, c'est un paysan, fils de paysan. Il le dit à sa famille. Je déteste l'arrogance et les arrogants. Il voit dans le fascisme l'expression de cette arrogance.
Alors on va continuer à parler de nos personnages qui ont l'amour du risque et de Gino Bartali en particulier avec notre invité, le journaliste Alberto Toscano sur Europe 1. A tout de suite.
Toi et moi, si le sensible vit encore, on se caresse, on se dévore. Une année impossible, cette année-là, ce virus invisible entre toi et moi. On se caresse, on se dévore, on s'aime trop, on s'aime encore. Juste toi et moi.
Toi et moi, c'était Bernard Lavilliers sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ils ont l'amour du risque, c'est le point commun de nos personnages cet après-midi dans Historiquement Vôtre. Et on parle de Gino Bartali, célèbre cycliste italien, avec notre invité, le journaliste Alberto Toscano, auteur du livre « Un vélo contre la barbarie ». Alors, Gino Bartali a intégré, on l'a dit, les réseaux clandestins pendant la guerre. Il a contribué à sauver plusieurs centaines de Juifs. Stéphane expliquait qu'il était porté par une foi catholique très intense, vous l'avez rappelé. Est-ce que c'est cette dévotion qui motive son engagement durant la guerre ?
Cette dévotion augmente son engagement. Et il faut revenir à l'Italie de septembre 1943, au moment où l'Italie signe l'accord de fin de guerre avec les Alliés, c'est-à-dire l'armistice avec les Alliés. L'Italie est immédiatement envahie par les Allemands, du nord vers sud. Et cette Italie envahie, que la persécution antisémite change de gravité, de ton. Et on passe... Avant, entre 1938 et 1943, les Juifs étaient renvoyés de l'école, renvoyés de leur... Mon père a perdu son travail, a été renvoyé du matin au soir. Mais ils n'étaient pas en danger. Hein? Et à partir de l'invasion allemande de 1943, septembre 1943, les Juifs sont déportés, voire fusillés sur place. Or, c'est ce changement qui provoque... un engagement de la résistance de l'Église et de la communauté juive, évidemment, tous ensemble, pour sauver des vies. Donc, à ce moment-là, il faut faire en sorte que ces Juifs soient hébergés dans des couvents, dans l'attente qu'ils puissent avoir des faux papiers. Et c'est là que l'archevêque de Florence, M. Dallacoste, appelle Gino Bartali, « Toi, compte tenu que tu peux circuler dans cette Italie divisée en deux, bombardée, pleine de contrôle, avec le prétexte, ayant le prétexte de l'entraînement, alors est-ce que tu accepterais de transporter, bien caché sur toi, les faux papiers indispensables à la liberté de cette personne persécutée ?
Plus tard, en 1948, Gino Bartali remporte pour la seconde fois le Tour de France, je l'ai dit, 10 ans après sa première victoire. On peut parler d'étapes clés dans le processus de la réconciliation franco-italienne, 3 ans après la fin de la guerre.
Oui, oui, c'est toute France de 1948 est doublement historique. Tout d'abord, parce qu'il y a eu, comme vous venez de dire, l'attentat à Palmiro Togliatti, le chef du Parti communiste, le 14 juillet à Rome. Togliatti est dans le coma. Quand il se réveille, c'est lui-même à demander aux Italiens de ne pas avoir des accrochages, de retrouver une atmosphère de paix nationale. Mais entre-temps, pendant ce jour où Togliatti est dans le coma, il y a cet exploit extraordinaire de Gino Bartali autour de France et l'Italie commence à regarder ailleurs et ça contribue à l'apaisement national. Cette victoire de Bartali en 1948 contribue aussi à l'apaisement franco-italien. Dans les mémoires des Français, il y a ce coup de couteau dans le dos, cette déclaration de guerre de Mussolini à la France et à la Grande-Bretagne le 10 juin 1940. Une France qui était déjà à genoux devant l'Allemagne et agressée par l'Italie fasciste. Et les Français ne l'ont pas oublié. Et à ce moment-là, en 1947-1948, le salon de l'auto ne pouvait pas héberger de constructeurs italiens. Pininfarina, avec ses carrosseries, a dû... et montrer ses réalisations à l'extérieur du Grand Palais, où il y avait le salon de l'auto à cette époque. C'est-à-dire qu'il y avait une atmosphère de rancune en France par rapport à l'Italie. Il y avait une réelle tension. Et cet exploit de Gino Bartali, cette victoire obtenue de façon si généreuse, contribue à faire comprendre aux Français qu'il y a une autre Italie. Et c'est l'Italie de ceux qui travaillent, de ceux qui pédalent.
Gino Bartali est mort en 2000. Il n'a jamais souhaité que son action clandestine soit révélée. À nouveau, qu'est-ce que ça dit de son caractère, ça ?
Ça dit deux choses. La première est son côté réservé. Gino il Pio, Gino le Pieux, dit qu'il y a deux types de médailles. Les médailles de ce monde, les médailles du sport, et les médailles de l'autre monde, la vie éternelle. C'est quelqu'un qui a demandé être enterré dans l'uniforme de tertiaire dominicain. C'est quelqu'un qui a ce côté religieux très spontané, sincère, profond, un peu naïf. Et dont Gino Bartali, ça dit le fait que Gino Bartali ne veut pas être reconnu, ne veut pas polariser sur soi-même l'attention des médias. Et ça dit aussi le fait que Gino Bartali sait qu'étant un engrenage d'une grande machine, pensez que pour faire réaliser des faux papiers, il faut que quelqu'un vole des tampons authentiques pour réaliser les faux papiers. Et les vole dans les préfectures, dans les services publics. Il y a eu des fusillés, des torturés dans l'Italie de 1943.
Mais alors pourquoi il y a des historiens qui remettent aujourd'hui en cause cette thèse parce qu'il est juste parmi les justes? Quels arguments utilisent ces historiens?
Il y a deux types d'arguments, dont un juste et l'autre ne l'est pas. Aujourd'hui, l'attention est polarisée sur lui. On dit l'héros de cet exploit de la résistance est Gino Bartali. C'est pas vrai. L'héros, la personne qui a été fusillée parce qu'elle a subtilisé un faux tampon dans une préfecture est héros encore plus que Gino Bartali. On ne connaît même pas son nom. Donc, Gino Bartali, il savait, ne voulait pas qu'on polarise sur lui. Donc, cet aspect, il était un engrenage d'une grande machine de résistance. On exagère à parler de Gino Bartali. Gino Bartali était le premier à le connaître. Donc là, c'est vrai, c'est le côté vrai. Il était un engrenage d'une énorme machine de liberté et de résistance. De l'autre côté, il y a une critique qui est fausse. On dit qu'il n'y a pas assez de témoins qui parlent de son rôle. Ça, ce n'est pas vrai. Il y a eu les moines, les bonnes sœurs des couvents d'Assise, où il y avait l'imprimerie clandestine de la résistance qui faisait les faux papiers. Et où Bartali allait de Florence, 200 km aller, 200 km retour sous les bombes. Hein. C'est pas... Et avec le contrôle des fascistes et les bombes anglo-américaines et le contrôle des fascistes et des nazis sur terre, sur le sol. Donc, il y a ces témoignages de bonnes sœurs, de personnes auxquelles Bartali a amené ses faux papiers. Parfois, elle les amenait directement à leur domicile. Et tout ça a contribué à faire en sorte que Yad Vashem à Jérusalem grave le nom de Gino Bartali, comme d'ailleurs le nom des évêques qui faisaient partie de ce réseau de résistance, sur le mur des justes à Yad Vashem. Donc, ce type de critique, qui n'est pas juste, qui n'est pas prouvé, et qui a probablement aussi un aspect de communication, excusez-moi, les historiens ne devraient pas utiliser ces moyens pour se faire de la pub, à mon avis. Et cette critique est offensante aussi pour Yad Vashem à Jérusalem et pour l'État d'Israël.
Gino Bartali, il est toujours une figure très célèbre en Italie et sportivement, ça reste un des plus grands cyclistes de tous les temps.
Sans doute. Sans doute. 2 Tours de France, 3 Tours d'Italie.
Oui, c'est beaucoup.
Et en plus, ce côté grimpeur extraordinaire. Oui. Et il a gagné plus de fois le titre de grand grimpeur que le titre de Tour de France et d'Italie. Il y a eu des années où il était le grimpeur du Tour sans triompher au Tour. Donc, c'était un homme extraordinaire, surtout un homme extraordinaire, avant d'être un champion
sans
sportif.
Ouais. Merci beaucoup, Alberto Toscano.
Grazie.
Je rappelle que votre livre « Un vélo contre la barbarie nazie » est disponible aux éditions Armand Collin. Je précise aussi qu'une bande dessinée de Gino Bartali, un champion cycliste parmi les justes, signé Julien Vologe et Lorena Canottiere, viennent paraître chez Marabulle. Merci à vous.
Grazie.
Merci beaucoup.
Arrivederci.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre, suivez-moi Stéphane, même si vous avez peur. Aujourd'hui, Clémentine Portier-Kaltenbach, qui ne recule devant rien, nous entraîne dans les chutes du Niagara à la rencontre d'Annie Hudson Taylor, qui avait, elle aussi, vous allez voir, l'amour du risque.
Oh,
attendez-moi quand même, Stéphane.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires sans jamais avoir peur de se mouiller. Et oui, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, s'est mouillée encore plus que vous, hein, celle dont vous allez nous raconter l'histoire. Annie Hudson Taylor, qui a descendu les chutes du Niagara dans un tonneau de bois. un tonneau de cornichons, je crois.
Bah oui, Stéphane, mais enfin, pour avoir cette idée, encore fallait-il habiter non loin des chutes du Niagara.
Puis avoir un tonneau de cornichons.
C'était son cas. Elle est née, Annie, elle se faisait surnommer Annie Edson, le 24 octobre 1838. À une trentaine de kilomètres des chutes du Niagara. C'est pas loin, pour ceux qui ne visualisent pas, ce n'est pas loin de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Elle appartient à une famille plutôt aisée de 8 enfants. Elle devient institutrice, épouse un certain David Taylor, dont elle a un fils. Voilà, hélas, le mari meurt, le fils aussi. Le mari meurt à la guerre de Sécession. Et donc elle se retrouve, Annie, veuve et tout à fait seule au monde. Alors, elle part un peu à la découverte des États-Unis. Elle voit du pays, elle voyage partout. Elle va habiter dans différentes villes où elle donne des cours de danse et des cours de musique. Mais voilà, elle avance en âge et au tournant du siècle, elle est loin d'être toute jeune et ses cours de danse ne lui permettent pas de joindre les deux bouts, alors qu'elle sera bientôt bonne pour la retraite. Et alors là, aux États-Unis, à l'époque, il n'y a pas de retraite, on ne cotise pas. Hein. Vaut mieux avoir quelques dollars de côté. Et comme elle lit avidement tous les journaux et les magazines populaires, elle découvre que l'exposition universelle panaméricaine de 1901 doit se tenir à Buffalo, donc pas loin de sa ville d'origine et des chutes du Niagara. Les chutes, à l'époque, attirent déjà pas mal de monde. Il y a beaucoup de touristes et on y multiplie les défis. Nage dans les eaux glacées des chutes, franchissement par des funambules, ça s'est déjà fait. Alors que faire, qui n'ait encore jamais été réalisé et qui lui permettrait de gagner de l'argent? Eh bien, se lancer dans les chutes du Niagara. Alors elle étudie à fond les conditions, évidemment, avant de se lancer dans le voyage. Et les conditions, vous l'avez dit Stéphane, c'est avant tout son moyen de transport. Alors elle fait différents tests et elle finit par opter pour un gros baril de cornichons. En latte de chêne blanc cerclé d'anneaux de fer, elle garnit l'intérieur d'un matelas destiné à amortir les chocs. Le baril de cornichons est quand même lesté par une enclume de 100 kilos pour tenir un petit peu plus stable. Et deux jours avant de se lancer dans les flots déchaînés des chutes du Niagara, elle fait comme tous les explorateurs avant elle. Pilâtre du Rosier avec sa montgolfière, vous savez, à Versailles, il a commencé par mettre un coq, un canard, un mouton, me semble-t-il. Et puis les Soviétiques avec Gagarine, quand il le fait, ils ont mis Leica, puis un chimpanzé dans leur vaisseau spatial. Alors elle teste son bocal de cornichons avec un chat. Bon, le chat survit, sauf une petite coupure.
Un chat, si vous le jetez du cinquième étage, il va survivre. Alors vous, non. Hein,
Donc le chat, en tout cas, survit. Il a une petite entaille quand même, mais bon, pas grand-chose. Alors voilà, on le fait poser, le chat, pour la postérité. Malgré ce résultat encourageant, nombreux sont ceux qui tentent évidemment de dissuader Annie Edson Taylor de se lancer dans cette aventure périlleuse. Et d'ailleurs, même certains de ses proches, de ses amis qui l'aident, se disent qu'ils sont en train de l'aider à se lancer dans une mission suicide. Et son manager a été prévu que si Annie mourait cette tentative, il pourrait être poursuivi pour homicide involontaire. Quand même. Donc ça a été assez loin. Enfin, ça n'est pas grave, elle s'entête. La descente est prévue pour le 23 octobre. Elle est reportée une première fois parce qu'il y a des vents et des courants beaucoup trop violents. Ce sera donc pour le lendemain, le 24 octobre. Et le 24 octobre, c'est l'anniversaire d'Annie. Alors, à 14h, elle monte dans son tonneau de cornichons. On utilise une pompe à vélo pour comprimer l'air à l'intérieur du tonneau et on bouche le trou avec un bouchon de liège. Et là, le tonneau est chargé sur une barque en amont des chutes. Il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui se sont rassemblées pour regarder le baril de cornichons franchir la chute. C'est quand même 167 pieds, ça fait 50 mètres de haut, hein, chers messieurs. Hein.
Et comment elle fait pour ne pas tomber du baril quand elle...
Il est fermé.
Bah, il est fermé.
Elle est enfermée de l'air.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on a en plus comprimé de l'air. D'accord, alors j'ai interrogé dans la régie les spécialistes
du bocal de cornichons. Comment on peut comprimer l'air et vivre si l'air est comprimé?
Et ben, parce qu'apparemment, on peut quand même, ça permet d'avoir plus d'air dans le tonneau et que l'air... Écoutez, moi je ne vais pas me prononcer, appeler Jean-Claude Bourret, c'est pas ma partie. Hein. En tout cas, chute vertigineuse dont Annie Edson Taylor se sort indemne et parfaitement consciente, quoique, je cite, légèrement hystérique, écrivent certains journaux. Oui, voilà, ça c'est bien les commentaires des journalistes de l'époque. C'est une femme dans son tonneau, donc elle sort légèrement hystérique. Le tout n'a pas duré 20 minutes. Seul dégât observé, elle a une belle entaille au cuir chevelu. Alors, ce qui fait quand
comme le chat.
quand on ouvre le tonneau, oui, mais sauf que quand on ouvre le tonneau, du coup, elle ruisselle de sang. On est d'abord très impressionné parce que le cuir chevelu saigne beaucoup, une légère commotion cérébrale et des ecchymoses sur le corps.
Elle n'avait pas pensé à mettre de casque dans son tonneau pour encaisser les 50 mètres de chute. C'est dommage.
Elle n'avait pas de casque. Bilan de l'aventure, quelques articles, quelques photos vendues. Mais bon, ça n'est pas la fortune espérée. D'autant que son manager s'est enfui avec le tonneau de cornichons.
Non.
Si, parce qu'il avait l'idée de gagner sa vie en racontant cette histoire. Et pour la raconter et gagner quelques dollars, et encore fallait-il avoir l'accessoire principal. Donc il s'est enfui avec le tonneau de cornichons. Alors Annie Taylor, c'est pas grave, elle passera quand même ses dernières années sur un stand touristique avec une réplique de son baril de cornichons. Gagnant 3 sous en posant pour des photos et répondant aux questions des touristes, elle meurt en 1921 à l'âge de 82 ans, aussi fauchée qu'elle l'avait été toute sa vie, et ses amis se cotisent pour qu'elle soit enterrée près des chutes. Donc elle est en effet enterrée près des chutes. Son exploit est gravé sur sa pierre tombale. Après elle, sur les 15 personnes qui ont tenté le plongeon, 5 sont mortes quand même. Hein. Donc on se dit elle est sortie plutôt en bon état, ça paraît anodin, mais pas du tout.
Ils l'ont tenté dans des tonneaux à cornichons aussi ou...
Non, il y en a un qui a tenté ça dans une espèce de suppositoire en métal. Ils sont nés. Non, je crois que lui aussi est mort, oui. Alors aujourd'hui, je vous signale, si vous jamais vouliez tenter l'aventure, que c'est tout à fait illégal et que toute tentative est passible d'une amende de 25 000 $. Donc avis aux amateurs.
Mais si on meurt, qui l'a... On est obligé de la payer ?
Ah non.
Non. Il pense à tout. Hein. On sent qu'il a des avocats qui verrouillent tout.
Merci beaucoup Clémentine.
Merci, vous restez avec nous Clémentine. Là aussi, il va y avoir une bonne dose d'adrénaline. C'est le quiz. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Could you be loved? C'était Bob Marley sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Entre eux, ce fut tout de suite d'emblée un coup de cœur intellectuel.
Et un coup de foudre sexuel aussi.
Oui, mais ça... Jouons, tout habillé s'il vous plaît, à Bern to be alive. Bern to be alive, c'est notre célèbre quiz. Question numéro 1, Stéphane, elle est pour vous, c'est la tradition. L'histoire, c'est le passé, mais c'est aussi le futur. Ainsi, quand on regarde des étoiles dans le ciel, on voit le passé. Et quand un astronome observe une supernova qui se situe à plus de 11 milliards d'années-lumière, ça signifie qu'on regarde un phénomène qui s'est produit il y a 11 milliards d'années. Ma question est la suivante, Stéphane. Est-ce que dans l'observation spatiale, on peut aussi observer le futur ? Si vous pouviez voir la tête de Stéphane Bern en cet instant, toutes les questions qui sont d'ordre...
scientifique, astronomie, astrophysique.
Mais sans doute.
Mais oui, alors ça, on peut faire. Je pense qu'on peut faire des projections. Voilà. C'est-à-dire en fonction de ce qui s'est passé, vous pouvez projeter ce qui peut se passer. Et c'est comme ça qu'on peut annoncer qu'une météore, un certain nombre de choses vont se produire.
Moi j'aime bien ce que dit Stéphane parce que c'est très intelligent. C'est vrai, vous avez raison. On connaît la trajectoire d'une comète, on peut calculer par l'intelligence humaine quand elle va repasser. C'est vrai, vous avez raison. En quelque sorte, on observe le futur. C'est pas exactement le sens de ma question. La question, c'est que quand vous voyez une supernova aujourd'hui, en fait, elle a 11 milliards d'années. Elle n'existe plus. Est-ce que de la même manière, vous pouvez voir le futur ?
Non.
Vous avez...
Voilà. C'était un petit piège, vous l'avez astucieusement déjoué, j'ai voulu vous aider parce que votre raisonnement était le bon. Non, nous ne sommes entourés que des lueurs du passé. Nous pouvons les observer, mais on ne peut pas voir en arrière et c'est bien dommage, car j'aimerais beaucoup savoir qui va gagner l'Eurovision l'année prochaine. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Évoquons la mémoire de Langdharma. C'est un roi tibétain du 9e siècle. Connu pour sa bonté, il était resté 3 ans les mains jointes. Aujourd'hui, quand on salue au Tibet, en se courbant un peu et en joignant les mains, c'est aussi en mémoire de Langdharma. Vrai ou faux, oui, ce geste
beau. Oui, c'est
lui.
Oui. Oh, c'est une belle idée.
Oui. Il était comme ça, les mains jointes. Langdharma.
Comment est Bouddha? Les statues de Bouddha, comment sont-elles?
Bouddha est gros, visiblement, selon les...
J'ai pas dit ça.
Les gestes de Stéphane.
Ah non, il a des bras partout.
Ah, il a des bras partout. Vous confondez avec Vishnu. C'est intéressant. Ah oui. C'est intéressant cette confusion entre le bouddhisme et l'hindouisme.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, alors, le bouddhisme, Stéphane, c'est une religion. Enfin, une
Vishnu et Shiva.
Qui s'érige contre l'hindouisme, si vous voulez.
Shiva, donc, c'est eux qui vous aident à faire le repas.
Shiva, c'est eux qui vous aident à faire le repassage. Stéphane Bern, 2022.
En tout cas, je trouve cette histoire très belle.
Oui, c'est beau.
Et elle mériterait d'être vraie. Donc je répondrai.
Vous répondez vrai.
Vous avez perdu.
L'histoire n'est pas belle, elle est laide, elle est cruelle. Langue d'Arma n'était pas du tout gentil.
On lui a coupé les mains,
non,
en fait.
Non, Langue d'Arma avait la langue noire.
Ah, voilà.
Il était très cruel, c'est pourquoi si aujourd'hui les Tibétains disent bonjour en se tirant la langue, je ne sais pas si vous l'avez noté, c'est pour montrer qu'elle n'est pas noire et qu'ils ne sont pas la réincarnation de Langue d'Arma, le vilain.
Mais ça, c'est très classique. Pendant la guerre des Camisards, dans le Sud-Est, on disait que les protestants avaient la langue noire.
Ah oui, c'est une accusation qu'on porte.
Et c'est pas vrai.
Si, c'est vrai, c'est vrai.
Question
numéro... ça va, Shiva,
hein. Oui, Shiva, le ménage, on sait maintenant.
Bah oui. Mais c'est parce que justement, il a plein de bras, il peut faire tout.
Oui, bien sûr.
Le ménage, la vaisselle, le passage.
1976, c'est la mort de Jean Gabin et la naissance d'Afida Turner. On n'a pas perdu au change. Et c'est cette même année que David Bowie sort Golden Years. Golden Years était issu de l'album Station to Station. Et c'est une période particulière pour David Bowie. Il est amoureux d'un homme et d'une femme simultanément. Il y a 10 chansons sur l'album, 5 en hommage à son amant et 5 en hommage à son amante. Vrai ou faux?
Alors... j'ai entendu parler de David Bowie, si vous voulez, mais...
plus que de Shiva, si tu es David Bowie.
Oui,
bien.
Mais voyez-vous, vous me parlez une langue étrangère.
Vous ne connaissez pas bien la discographie de David Bowie et sa vie personnelle? Vous savez qu'il a fricoté avec Amanda Lear.
Oui, ça je sais. Elle disait, elle racontait qu'il se maquillait plus longtemps
qu'elle.
Oui, oui. Il avait les yeux verrons, je crois. Il avait deux yeux qui n'avaient pas la même couleur.
Vous savez pas mal de choses. Est-ce que tout ça va vous amener vers la réponse?
Je pense que quelqu'un qui a les deux yeux pas de la même couleur peut partager son album en deux. À la fois,
je pense
qu'il avait des amours homosexuels et des amours hétérosexuels.
Oui.
Ça, je pense, c'est pas un secret d'État que je...
Voilà. Non.
Donc ça, je pense que c'est vrai. Ça serait très amusant qu'il partage son album en deux.
Ça serait très amusant.
Voilà, donc je dis oui, ça m'amuserait.
Vous avez...
Et là, Stéphane, l'histoire n'est pas là pour vous amuser. L'histoire, ce sont des faits précis.
C'est l'histoire de la chanson récente. Hein, c'est pas non
plus... c'est l'histoire aussi, Stéphane, David Bowie. Et c'est une période très particulière quand même pour David Bowie, car à l'époque, il se droguait beaucoup, à tel point qu'il a déclaré, peu avant sa mort, qu'il avait totalement oublié avoir enregistré l'album Station to Station. Ouais. Il n'en a pas souvenir. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Attention, si je vous dis les deux tours, vous me dites...
Les deux tours, les Twin Towers.
D'accord. Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Film historique sur Frodon Sacqué qui part avec Sam Sagas pour le Mordor afin de détruire l'anneau unique à la montagne du destin. À un moment du film, Viggo Mortensen, l'acteur principal, frappe de rage un casque car il pensait que ses amis étaient morts. Le cri a été extrait du film La Planète des Singes, sorti en 1968, ce qui est un clin d'œil cinématographique du réalisateur Peter Jackson à ce film qu'il a beaucoup aimé. Vrai ou faux?
Oh, vrai, écoutez, ne perdons pas de temps. Parce que...
je vous donne la réponse, c'est faux. Vous répondez?
C'est faux.
C'est faux, c'est une bonne réponse, oui, Clémentine. C'est complètement faux, c'est une histoire qui est assez connue chez les cinéphiles. Le cri est particulièrement crédible car, en fait, Viggo Mortensen s'est pété les deux orteils pendant la scène et cette scène a été laissée au montage final. Ouais. Écoute. Le cri n'était pas joué. Ouais. Il s'est pété les orteils, le beau Viggo. Vous n'avez pas vu Le Seigneur des Anneaux, Stéphane?
Non.
Vous n'avez même pas vu une fois.
C'est génial.
C'est à voir quand même, Stéphane. Je me suis fait des nuits, Seigneur des Anneaux.
Ah oui, c'est prodigieux. Et Viggo Mortensen est irrésistible avec ses cheveux sales et ses ongles noirs. Le truc, c'est que je suis allée à la première. Alors là, il avait des talonnettes et une petite cravate en cuir avec les cheveux.
Excusez-moi, à quel titre étiez-vous à la première
Non, mais à Paris, la première à Paris.
Ah non, la première, pas l'avant-première.
Oui, on l'invite aux soirées.
Bien sûr, pas People à ce point. Mais en tout cas, là, quelle déception.
En tout cas, vous l'avez bien aidé. Vous l'avez bien aidé.
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Vous l'avez donné la réponse.
Mais c'est juste que sa langue a fourché. Elle voulait dire non, je le savais.
Oui, c'est ça.
Question numéro 5. Attention, ça va aller très très vite.
Ah oui.
Et là, possiblement, vous connaissez la réponse. Alors attention. En 850, quel était le nom du Mont Saint-Michel ?
Oui. Le Mont Tombe.
Mont Tombe.
Trois propositions. Zumba ?
Non.
Pumba ?
Non.
Ou Tumba ?
Tumba.
Oui, Victor,
Il
a dit Tumba, vous avez dit Tombe. C'était Tumba. Et oui, évidemment, bravo Stéphane.
Mais en français, on dit Tombe, le
Avant
Mont Tombe.
Avant que Charlemagne ne choisisse comme nom définitivement Saint-Michel au péril de la mer.
C'est pas un personnage de Walt Disney, non, Zumba, Tumba.
Alors Zumba n'est pas un personnage de Disney, Pumba, oui.
Pumba, voilà.
Pumba, c'est le facochère dans Le Roi Lion. Tumba, le Mont Saint-Michel, l'ancien nom du mont, était donc le Mont Tombe. Vous avez raison aussi, Clémentine. Donc Tumba, dès 966, on ne trouve plus trace de Tumba, mais on l'appelle Monte Sancti Michaelis. Je crois qu'une traduction rapide nous donne le Mont-Saint-Michel. Très belle victoire de Stéphane.
Ah non, mais c'est
vous avez été repêché d'extrémiste.
Mais c'est indécent. Mais écoutez,
c'est bien,
il
Stéphane.
Est là, engorgé, on dirait le
Elle pont allait de... dire, vu que Mortet, oui, c'était un hommage. C'était un hommage.
Non, mais écoutez, là, il a triché, nous sommes d'accord. Mais enfin, là aussi, il a triché. En fait, vous trichez tout le temps.
Je triche tout.
Oui, mais je ne me rengorge pas d'un air autosatisfait. Je le savais.
C'est arrivé.
C'est vrai.
C'est arrivé.
Restons bons amis.
Europe 1, historiquement vôtre.
Comme Stéphane, qui n'hésite pas, il nous l'a confié récemment, à laisser son teckel à poil dur dormir avec lui, sachant qu'il s'est baladé dans la gadoue toute la journée, nos personnages ont l'amour du risque.
Oui, encore plus que moi, je crois. Après le cycliste italien Gino Bartali, qui a pris doublement des risques sur son vélo, je vous raconte le plus célèbre des cascadeurs français, Rémi Julienne, qui prenait des risques aussi, mais des risques toujours calculés, selon lui. Quant à vous, Mathieu, vous nous parlerez d'un cascadeur aussi, mais un cascadeur à la bourse.
Ah oui, le célèbre trader déchu Jérôme Kerviel, il n'a pas fini de rembourser sa dette à la Société Générale, mais il m'a dit qu'il avait un plan, il m'a aussi demandé votre 06, Stéphane. Alors moi, vous me connaissez, si je peux aider, j'ai transmis, quoi.
Vous avez bien fait.
Point Leclerc.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Cet après-midi dans Historiquement Vôtre, ils ont l'amour du risque, Stéphane.
Après le cycliste italien Gino Bartali, qui a pris des risques sur son vélo, et pas uniquement pour gagner une course, je vous raconte celui qui a laissé à jamais son nom dans la cascade au cinéma, le regretté Rémi Julienne.
Mais tout de suite.
Il est 17h sur Europe 1.
Un point sur l'info avec vous, Émilie Dèze.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Emmanuel Macron est arrivé en Algérie. Son avion a atterri il y a un peu moins d'une demi-heure. Le chef de l'État en visite pendant 3 jours pour relancer les liens entre les deux pays. Au programme, une cérémonie d'hommage aux martyrs, un tête-à-tête avec le président algérien. L'Algérie, qui est l'un des 10 premiers producteurs de gaz mondiaux, pays très sollicité donc depuis le début de la guerre en Ukraine. En France, les stocks de gaz dépassent les 90%. Le gouvernement veut atteindre les 100% avant novembre pour faire face à de potentielles pénuries. Et c'est dans ce contexte qu'EDF annonce prolonger l'arrêt de 5 réacteurs nucléaires de plusieurs semaines, la faute à des problèmes de corrosion. Aucun enseignant ne débutera sa carrière en dessous de 2000 euros net par mois, la promesse d'Emmanuel Macron devant les recteurs d'académie réunis à la Sorbonne. Le chef de l'État qui a détaillé ses ambitions pour l'école, il a notamment annoncé un fonds d'innovation pédagogique d'au moins 500 millions d'euros dès le mois de septembre. Les temps de stage seront développés d'au moins 50% dans les lycées professionnels. La rentrée, c'est dans une semaine tout juste. Si vous n'avez pas encore bouclé la liste des fournitures scolaires, écoutez bien. L'UFC Que Choisir appelle à ne plus acheter de stylo-billes aux enfants. Selon l'Association de défense des consommateurs, ils contiennent de nombreux composants dangereux, des perturbateurs endocriniens, des impuretés cancérogènes. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire demande une législation plus restrictive. Le nombre de demandeurs d'emploi a légèrement augmenté en juillet, plus 0,6% selon les chiffres du ministère du Travail. La centrale nucléaire de Zaporojia en Ukraine est totalement déconnectée du réseau électrique. Ses lignes de communication ont été endommagées, une première dans l'histoire de la centrale. centrale désormais sous contrôle russe. Hier, c'est une gare du centre de l'Ukraine qui a été frappée par des militaires russes. Moscou assure avoir visé un train militaire en partance pour les zones de combat et tué plus de 200 soldats ukrainiens. Kiev déplore 25 civils morts et 31 blessés. Vladimir Poutine a signé aujourd'hui un décret pour augmenter les effectifs russes de 10%, une hausse de 137 000 militaires. Si vous rentrez de vacances demain, il va falloir prendre votre mal en patience. Bison futé, voie rouge dans le sens des retours. Ce sera rouge aussi samedi. Des difficultés sont annoncées dans la région Rhône-Alpes sur les autoroutes A7 et A8. Bientôt la fin du suspense à 18h ce soir. Le PSG et Marseille connaîtront leurs adversaires en Ligue des Champions dans un peu moins d'une heure. Dans le chapeau 1, Paris pourrait rencontrer Liverpool, l'Inter Milan ou les Glasgow Rangers. Chapeau plus difficile pour Marseille qui pourrait être opposé au Real Madrid, à Liverpool ou à l'Inter Milan. Et puis cette fois, c'est sûr, Novak Djokovic ne jouera pas à l'US Open de tennis cette année. Le Serbe a annoncé son forfait faute de s'être fait vacciner contre le Covid. 17h03 sur Europe 1, la suite d'Historiquement Vôtre. C'est maintenant.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre et c'est très judicieux de votre part, du moins si vous voulez apprendre en vous amusant, comme les jeux Play School, mais en gratuit et avec Stéphane Bern.
Ah, génial !
C'est pas nous de le dire, Stéphane, encore moins à vous, mais oui. Et aujourd'hui, on réunit trois personnages pour le moins casse-cou.
Oui, Mathieu, trois personnages qui ont...
L'amour du risque.
L'amour du risque. Mais ce n'est pas Jonathan et Jennifer.
C'est dommage.
Après, le cycliste Gino Bartali, dont le vélo a servi à gagner des courses, mais aussi à aider des Juifs pendant la guerre, je vous raconte le cascadeur Rémi Julienne. Il a pris des risques aussi, mais des risques toujours calculés, selon lui. Quant à vous, Mathieu, vous nous parlerez d'un autre genre de cascade, d'un cascadeur qui lui aussi avait l'amour du risque.
Oui, un cascadeur boursier. Son problème, c'est qu'il a agi sans filet et qu'il s'est ramassé assez méchamment jusqu'à devoir près de 5 milliards d'euros à la banque pour laquelle il travaillait. Aujourd'hui, je vous raconte, vous l'avez deviné, l'incroyable histoire de Jérôme Kerviel, trader maudit devenu humoriste sur Twitter.
Sans parler des chroniqueurs qui sont avec nous et qui ont aussi l'amour du risque. La preuve, David vient tout juste de finir d'écrire sa chronique. Vous nous racontez l'origine
non,
du...
C'est assez faux cette fois-ci, mais c'est arrivé dans le passé.
Ah oui. C'est le ballon rond.
Le ballon de football, et en particulier ce ballon de football très...
Le bicolore
avec noir et blanc, avec des pentagones noirs et des hexagones blancs.
C'est qui a eu l'idée ? Il y a un mec qui a eu l'idée ou c'est un truc collectif ?
On ne sait pas exactement qui a eu l'idée, mais il y a eu un moment où il a pris.
Ça a basculé.
Ça a basculé aussi, Stéphane. On a arrêté de bouffer quasiment des pâtes et du riz. On a commencé à découvrir le boulgour.
Ouais. Vous en mangez, vous, du boulgour ?
Alors, vraiment, quand il n'y a plus rien dans le placard et qu'il reste juste du boulgour.
Je vais essayer de vous convaincre qu'en fait, ce n'est pas si mal et qu'il faut dépasser ce cliché de nourriture de bobo parisien et qu'on peut vraiment faire des trucs pas mal avec le boulgour. Et c'est moi qui vous le dis, c'est dire.
Mais c'est fou.
La lutte finale, ça sera en fin d'émission et c'est le grand quiz, vous le savez, qui vous permet de nous départager en histoire. On découvre chaque jour qui est le moins nul. Tout de suite, découvrons notre deuxième personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Une bonne sœur qui dévale en riant les routes de Saint-Tropez à bord d'un sidecar dont le gendarme se marie. Ça vous dit quelque chose ?
Oh, monsieur le cachot depuis le temps !
Foncez !
C'est un cascadeur français de légende qu'on doit cette scène mythique et c'est loin d'être la seule, très loin même, sans trembler. Stéphane Bern nous raconte celui qui avait l'amour du risque calculé.
J'y vais mais j'ai peur.
Mais non, ne craignez rien Stéphane, Rémi Julienne.
Nous sommes en 1969, en ce mois de juin sort sur les écrans une comédie britannique tournée en Italie, L'or se barre, avec le très flegmatique Michael Caine. Le scénario est simple, un malfrat anglais monte une équipe pour effectuer un gros coup, à savoir braquer un convoi chargé de lingots d'or en Italie. Dès sa sortie, le film rencontre un large succès. Il faut dire que les acteurs sont excellents, les dialogues drôles, le cliffhanger habile et surtout sa course-poursuite dans les rues de Turin à bord de trois mini-austines bleus, blancs, rouges est devenue culte. Une scène devenue culte grâce à ses cascades époustouflantes. L'une d'entre elles surtout qui ne dure pourtant que quelques secondes. Les trois Mini Cooper S 1300cc type rallye africain sautent entre les toits d'une usine. la voiture de la police italienne, elle, reste sur le carreau. Si le spectateur s'accroche à son siège, le monde de la cascade, lui, reste bouche bée devant une telle prouesse. Que de travail, de tracas, de doutes, d'angoisses pour ces quelques secondes sur la pellicule que l'on doit à un homme, Rémi Julien, 38 ans, engagé sur le tournage pour superviser les cascades mécaniques. Ce saut, c'est son idée. Oh, on l'a d'abord cru fou de se lancer dans une folie pareille. Du suicide même, lui a-t-on dit. Et puis, comme par miracle, on a décidé de lui faire confiance. C'était un dimanche de mai 68 à la fin du tournage. Ce jour-là, Rémi Julien n'emmène pas large. Sur les toits de l'usine Fiat de Mirafiori, où on a assemblé les Mini Cooper, il songe même un instant à tout avorter. Le chef opérateur ayant annoncé que la lumière n'était pas bonne, l'attente avant le saut est longue. 1h30, durant lesquelles les doutes l'assaillent. Et si l'une des voitures subissait une rupture d'organes? Et si elle chutait entre les bâtiments? Et si 24 mètres séparent tout de même les deux toits? Après ce qui lui semble une éternité, la lumière change. Le directeur de la photographie s'agite, les opérateurs se préparent, le réalisateur lève le drapeau, on met en marche les 6 caméras, puis le drapeau se baisse, les moteurs vrombissent. Les voitures sont lancées à 110 km/h, elles n'ont que 150 mètres avant le saut. À mi-parcours, Rémi Julien regarde dans ses rétroviseurs. Comme convenu, les deux autres conducteurs sont légèrement en retrait. Puis les yeux rivés devant lui, il s'élance sur le tremplin. Sa voiture s'envole sous un bruit d'enfer lorsque les roues motrices quittent le sol. Le temps reste suspendu. Les équipes au sol et les 300 figurants présents ce jour-là retiennent leur souffle. Puis c'est l'atterrissage sur le toit, comme prévu. Le choc est épouvantable dans les reins et les mécaniques. Tant bien que mal, les pilotes gardent le contrôle des voitures et s'arrêtent dans un nuage de fumée. « Coupé, c'est dans la boîte !» Tout le monde hurle de joie. Rémi Julien le sait, il vient de réussir ce qu'on croyait impossible. Lui qui enchaîne depuis plusieurs semaines les tournages entre Londres, Rome, Paris, Saint-Tropez et Turin n'avait pas encore eu le temps de réaliser véritablement ce qu'il tentait. S'il vient de marquer l'histoire du cinéma, Rémi Julien n'en est pourtant qu'au début de sa carrière. Son premier job de cascadeur, il l'a décroché 4 ans plus tôt. Avant ça, il partageait son temps entre les courses de motocross, sa passion, et son métier de chauffeur de poids lourd dans l'entreprise de son père. Mais sa vie change un beau jour de 1964. Un journaliste de Motorevue l'appelle. Il manque un bon motard pour doubler Jean Marais dans le film Fantomas. Ça vous tente? Pourquoi pas, se dit-il. Il postule. Gilles Delamarre, le grand cascadeur, l'engage. Le courant passe entre les deux hommes. Ils sympathisent même. Delamarre apprécie son talent, son sérieux, son goût du gag et son franc-parler. À 34 ans, Rémi Julien a un caractère bien trempé. C'est un gaillard qui a tracé sa route malgré des difficultés à l'école et une tendance à la paresse. Il compense avec une ingéniosité sans limite et un goût immodéré du risque, surtout à moto. Quelques années plus tôt, à force d'entraînement, il a d'ailleurs décroché le titre de champion de France de motocross. Il a beau ne pas connaître le cinéma, la moto, ça, il maîtrise. Alors, sur ce premier tournage, face à l'incompétence des autres motards, il ne mâche pas ses mots et cela fait mouche. Julien ne le sait pas encore, mais son avenir est désormais joué. Ce petit job de 3 semaines va bouleverser son destin. Gilles Delamarre le fait engager sur un autre film dès l'année suivante, Copland Castou, en 1965. Puis le Gentleman de Cocody, le Grand Restaurant, et surtout l'immense succès de Gérard Houry, La Grande Vadrouille. Dans la fameuse scène de poursuite, le motard allemand qui se prend une citrouille sur la figure, puis file dans le décor, bah c'est lui. Delamarre croit en ce jeune casse-cou et lui donne de plus en plus de responsabilités. Et quand Delamarre meurt lors d'un tragique accident de tournage en mai 66, c'est à lui que l'on demande d'honorer les contrats de son mentor. Pour lui, qui a si peu d'expérience, c'est un défi de taille. Mais il s'exécute. Le voilà propulsé responsable des cascades. Les années 66, 67, 68 sont des années de rodage. Mais les scènes qu'il supervise sont toujours impeccables. Car Rémi Julien s'avère non seulement un cascadeur de talent, mais aussi un excellent technicien, astucieux et surtout remarquablement rigoureux. Il se démarque par son sens aigu de la précision. Chaque scène, chaque cascade est minutieusement pensée, calculée au millimètre près et au quart de seconde près. Après l'incroyable cascade des Mini Cooper à Turin, son nom est sur toutes les lèvres dans le milieu et de nombreuses collaborations s'en suivent. avec Jean-Paul Belmondo, notamment à 14 reprises, comme dans cette folle course-poursuite dans les rues d'Athènes que l'on peut découvrir dans le Casse en 1971. Julienne double Belmondo au volant de l'Opel Record, Raymond Mosconi au Marche Arrive dans sa Fiat 124. En France comme à l'étranger, les acteurs et les réalisateurs font aveuglément confiance à Rémi Julienne. Il apparaît au générique de films signés Dino Risi, Alberto Lattuada, Terence Young, Sidney Pollack, Sergio Leone, Ron Howard. On lui doit aussi les scènes d'action de 6 James Bond, dont GoldenEye. Mais même les plus grands ne peuvent tout contrôler. Un drame vient écorner sa carrière en 1999. La mort d'un cadreur, membre de son équipe, sur le tournage de Taxi 2. Un choc terrible, mais qui n'entame pas sa passion. Passion qu'il a transmise à ses deux fils d'ailleurs, Michel et Dominique, tous les deux cascadeurs. Après un demi-siècle au service du cinéma, Rémi Julienne nous a quittés l'année dernière, à l'âge de 90 ans, après quelques 1400 productions, dont 400 films au compteur, L'aiguille toujours poussée dans le rouge.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler du destin incroyable de Rémi Julienne, nous sommes justement, Stéphane, avec l'un de ses fils. Bonjour Michel Julienne.
Bonjour.
Bonjour Michel Julienne. Le temps de détacher ma ceinture et on parle avec vous dans un court instant.
Et juste avant, on écoute le chanteur britannique Harry Styles, As It Was, sur Europe 1.
As It Was, c'était Harry Styles sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre et nos personnages qui ont l'amour du risque continuent l'amour du risque calculé, en l'occurrence, puisqu'on parle de Rémi Julienne avec notre invité Stéphane, Michel Julienne.
Oui, Michel Julienne, vous êtes le fils aîné de Rémi Julienne et vous avez été cascadeur comme lui. Votre père vous a transmis à vous et à votre frère cette passion. Est-ce que votre père vous emmenait sur les tournages ou vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit, comme on dit ?
On peut dire ça comme ça, oui, mais la première passion transmise fut pour moi le motocross. Déjà, il m'emmenait sur les courses de motocross avec ma maman. Tout gosse, je voyais ses départs à 32 fronts, les sauts, les dérapages en moto, les bagarres, et ce côté spectaculaire me plaisait beaucoup. Ensuite, ce fut les visites sur les tournages, et là, c'était autre chose.
Mais vous étiez d'ailleurs avec lui lors de sa première cascade au cinéma pour Fantomas. Vous étiez alors tout petit garçon. Vous ne vous êtes pas dit que votre père était en train de faire quelque chose de complètement fou ?
Ça m'avait choqué à l'époque. Je me souviens de m'être caché les yeux comme ça. Je ne voulais pas voir. Et puis quand même, la curiosité était la plus forte et j'ai écarté les doigts pour regarder quand même. Mais c'était... je devais avoir 7 ans à l'époque. Ça m'avait profondément choqué.
Et vous avez ensuite, beaucoup plus tard, travaillé avec lui pendant plus de 15 ans. Est-ce que vous vous souvenez de votre première cascade avec lui ?
Il serait difficile d'oublier ma première cascade avec lui, oui. On avait préparé une voiture, je dis on, puisque avec les garçons de l'atelier, j'avais participé à la préparation d'un véhicule qui devait effectuer des tonneaux. Et c'est une fois le tremplin monté et pratiquement prêt à partir. Après, je m'attendais à le voir aller s'habiller. Il me dit, il se tourne vers moi, puis il me dit, ça y est, c'est toi qui vas faire les tonneaux. Mon sac à protection est à ta disposition. Et quelques minutes seulement avant d'entendre moteur et action. Et je dois avouer que, comme préparation psychologique, il y a un petit peu mieux. J'aurais préféré le savoir la veille. Mais bon, c'était aussi Rémi Julienne.
Oui, mais en même temps, vous n'aviez pas eu le temps d'appréhender.
Oui, c'était toujours une mieux comme, aussi, ça, comme oui. Ça. On y va.
Cela dit, ça, c'était pour mes premiers tonneaux officiels. C'était pour ma première cascade officielle.
Ah, il y avait eu des tonneaux avant ?
Oui, j'avais tenté, à force de voir toutes ces préparations, toutes ces choses, de les entendre parler. Vous savez, on ne se méfie pas d'un gamin qui tourne autour de vous comme ça, et les gens parlent, expliquent ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font. Et à 13 ou 14 ans, je connaissais toute la théorie de la cascade. Mmh. Et je n'avais plus qu'une curiosité, c'est de mettre en pratique ce que j'avais fait en soudoyant, entre guillemets, un des garçons qui travaillait pour lui à l'atelier pour m'aider à monter un tremplin, parce que c'était difficile, c'était un petit peu lourd. Et m'aider à mettre une 4 chevaux sur le toit. Quoi.
Alors, Stéphane l'a rappelé, Rémi Julien était champion de motocross et cascadeur en moto et en voiture. Il ne voulait pas faire de cascade physique, c'était sa limite. Il fallait toujours qu'il y ait un véhicule.
Ce n'était pas nécessairement une question de limite, mais plus de goût et de passion. Il aimait, il connaissait bien la mécanique, moto, camion, voiture. Il y avait suffisamment à faire dans ce qu'il connaissait bien. Donc pourquoi aller chercher ailleurs? Là où il y a des gens extrêmement performants, ne pas chercher à faire ce que l'on connaît moins bien. Déjà faire ce que l'on sait faire. Et ensuite, le reste. Il y avait tellement de travail dans la mécanique que ça suffit qu'il n'ait jamais allé sur le physique.
Rémi Julien est entré dans le cinéma un peu par hasard. Et pourtant, c'était un concepteur de cascade hors pair. C'est lui qui a amené la cascade là où elle est aujourd'hui et lui a donné ses lettres de noblesse.
À cette époque-là, le cascadeur passait auprès de beaucoup pour un casse-cou, pour un risque-tout. Et ne voyait pas bien ça comme un métier, en fait. Et Rémi Julien a initié une méthode de travail qui se transmet et qui continue d'évoluer. Et il est devenu concepteur de cascade et un concepteur de cascade hors pair, en proposant plein d'idées parce qu'il savait comment les réaliser, les exécuter, et quels moyens mettre en œuvre, quels moyens techniques mettre en œuvre pour exécuter une cascade. Et je pense de cette façon qu'il a donné sa lettre de noblesse à la cascade mécanique en particulier et à la cascade en général, parce que les gens font comme lui maintenant.
Et qu'est-ce que vous avez appris de lui en travaillant à ses côtés? Que finalement, rien n'est impossible derrière un volant?
Rien n'est impossible derrière un volant. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en travaillant avec lui, j'ai appris qu'il fallait comprendre d'abord ce que voulait le réalisateur, de façon à proposer les solutions adaptées qui permettent de mettre ses souhaits du réalisateur en image, à partir de solutions humaines et techniques possibles et réalistes. J'ai appris également que si les cascades sont souvent semblables, des tonneaux, ça reste des tonneaux, les lieux, le matériel, les véhicules, les conditions dans lesquelles elles peuvent être exécutées sont toujours différentes. Il fallait savoir rester suffisamment humble pour se remettre à chaque fois en question. On réfléchit toujours avant, c'est en fonction de toutes ces données.
Mais justement, comment on vit avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence, de devoir faire des cascades toujours plus impressionnantes, j'imagine, à chaque film, à chaque production? C'est stressant.
C'est plus l'amour des actions spectaculaires que tout le monde n'a pas l'occasion de faire, qui peuvent effectivement comporter des risques. Oui, j'ai entendu souvent mon père dire qu'il était peureux et douillet. Et ça, il me l'a transmis aussi. Il en était de même pour moi. Alors j'ai fait de la peur une copine, une amie qui m'aidait à réfléchir pour identifier au mieux les risques, de manière à trouver les solutions. Ensuite, tout est enregistré dans mon disque dur interne. Et puis, lorsque j'étais au volant ou au guidon, au moment de partir, j'étais d'accord avec moi sur ce que j'avais décidé de faire, comment et quand, pour exécuter ce que j'avais exécuté. Ce que mon père appelait le geste juste au moment juste. Hélas, on ne peut pas penser à tout. J'ai bien subi quelques chocs dont je me serais bien passé. Mais au final, hormis un extrêmement, si quand même extrêmement violent, qui aurait pu être encore plus lourd de conséquences qu'il n'était, je me sens plutôt en forme. Et puis, cet accident aurait été une expérience très instructif, pour moi, m'aurait beaucoup aidé pour la suite. Déjà, pour ne pas manquer d'utilité, savoir reconnaître qu'il y a des jours où on n'est pas en état de travailler et pouvoir proposer une alternative, c'est-à-dire avoir un backup, pouvoir mettre quelqu'un d'autre à sa place en fonction de ce qu'il y a à faire. Et puis pour diriger les autres également, toujours chercher à les mettre dans les meilleures conditions psychologiques possibles, quoi, pour les protéger.
J'ai rappelé que Rémi Julien et Belmondo ont collaboré sur près de 14 films ensemble, du culte Peur sur la ville au Guignolo. Vous étiez d'ailleurs souvent avec eux sur les plateaux de tournage. Votre père et Belmondo avaient une relation particulière. Ils étaient des mentors, mais aussi des amis, non?
Ils sont restés amis très très longtemps, puisque les dernières photos d'eux en déjeuner au restaurant datent de quelques mois seulement avant le départ et de l'un et de l'autre. Il est certain que la relation entre les deux, c'était quelque chose de fort. Moi, j'ai souvenir d'avoir été embringué pour un soi-disant repérage dans l'arrière-pays niçois. Julienne, Belmondo, Lautner. En fait, nous nous sommes retrouvés dans la cave d'un restaurant connu des habitués du rallye de Monte-Carlo qui s'y arrêtait pendant les reconnaissances. J'ai vite compris pourquoi. Entre gens qui aiment bien vivre, j'ai vu se taper sur les cuisses et sur le ventre Jean-Paul, Georges, Rémi, des gamins, quoi. C'était, pour moi, c'était inoubliable, ça.
votre père était cascadeur, vous avez été cascadeur, votre fils est cascadeur. C'est un héritage qu'on garde, on cultive l'art de la cascade en famille.
Écoutez, un héritage, c'est sûr. Mais je crois qu'on ne cultive pas l'art de la cascade. On met le doigt dessus et il vous prend le reste du corps. Hein. Mon fils aîné, David, est également cascadeur. Je n'ai pas su ou pas voulu le préserver comme j'ai été aidé à le faire par leur maman pour son frère et sa sœur. Mais David Julien a été récompensé aux États-Unis. Il a reçu le 2019 Taurus World Stunt Award pour Best Action in a Foreign Film. Il eût été dommage que l'industrie française du cinéma se prive d'un garçon avec un tel talent pour les cascades automobiles.
Oui,
écoutez, je suis tellement fier de lui que je ne peux pas ne pas en faire part.
C'était dans quel film ?
C'était pour Taxi 5.
Merci beaucoup, Michel Julien, d'être revenu avec nous sur le parcours hors norme de votre père, un cascadeur qui avait l'amour du risque et du cinéma, qu'il vous a d'ailleurs transmis, puisque vous êtes devenu cascadeur vous-même, ainsi que votre propre fils, David Julien. Merci.
Merci à vous
d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
Eh bien, je vous en prie.
Europe 1, historiquement vôtre.
Aujourd'hui, historiquement vôtre est donc consacré à ces personnages qui ont l'amour du risque. Après Gino Bartali et Rémi Julien, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, à 99% vrai, d'un trader que le goût immodéré du risque a définitivement perdu.
Oui, c'est en tout cas la version de la Société Générale à qui il devait encore récemment près de 5 milliards d'euros. Que devient Jérôme Kerviel et surtout, comment est-il devenu Jérôme Kerviel? Restez avec nous.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on évoque ces personnages qui ont l'amour du risque. Après Gino Bartali et Rémi Julien, vous nous brossez, Mathieu, le portrait 99% vrai de quelqu'un qui a pris des risques financiers assez importants, l'ex-trader Jérôme Kerviel.
C'est un des points sur lesquels nous sommes diamétralement opposés, Stéphane. Moi, j'estime que dans la vie, du moment qu'on a un toit sur la tête et de quoi manger à sa faim, le bonheur est surtout spirituel, dans la lecture ou les relations humaines. Vous, clairement, c'est le pognon. Votre devise, je la rappelle ici pour nos auditeurs...
Si on ne respecte pas l'argent, on ne se respecte pas soi-même.
D'où ces heures que vous passez, Stéphane, à investir en bourse, l'œil rivé sur les cours du Forex. Pas la peine de nier, les gens doivent savoir qu'entre deux missions patrimoine, vous minez du Bitcoin. Eh bien, longtemps, Jérôme, je vois tout à fait miner du Bitcoin.
Ah oui, bien sûr.
Eh bien, longtemps, Jérôme Kerviel fut comme vous, obsédé par l'argent. Obsédé surtout par le désir de prouver sa valeur. Après mes recherches pour ce portrait, je ne crois pas que nous soyons face... Désolé pour le thème du jour, à un amoureux du risque. Si Jérôme Kerviel a pris des risques, nous le verrons, c'est plutôt pour prouver à sa hiérarchie qu'il valait autant, si ce n'est mieux, que ses collègues traders sortis de Polytechnique, lui qui sortait d'une école moins prestigieuse. Petit rappel des faits. Jérôme Kerviel était opérateur de marché, anciennement salarié de la Société Générale, accusé par son employeur d'avoir pris, à l'insu de sa hiérarchie, donc des positions spéculatives de dizaines de milliards d'euros sur des marchés à risque, tout en déjouant les contrôles avec des opérations fictives. Vous suivez ?
Non.
Non, alors simplifiez. Stéphane, vous me donnez votre carte de crédit et vous me dites « Mathieu, va à la grande épicerie du bon marché, m'acheter 4 asperges et 3 melons ». Je vous dis « Ok, mais au lieu d'acheter 4 asperges et 3 melons, j'achète le bon marché ». Parce qu'avec votre carte, c'est possible. Vous ne seriez pas très content.
Ah non, là.
Mais ben là, c'est pareil. La Société Générale n'était pas très contente. Alors, dans cette affaire, il y a bien sûr deux points de vue irréconciliables, même si la justice a plutôt tranché en faveur de la banque. Selon Kerviel, ses supérieurs savaient très bien de quoi il retournait au moment de ses agissements et ont décidé sciemment de fermer les yeux. Désigné comme seul responsable de l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire, Jérôme Kerviel va devenir, au fil de cette affaire, un personnage très clivant, comme on dit. Il a ses détracteurs, nombreux, et ses fans, un peu moins nombreux, mais bien là. Alors après, c'est vrai aussi qu'il n'a tué personne, et on le sait, dans notre monde malade, même ceux qui ont tué des gens ont des fans. Pas vrai, David ?
J'aime les nazis.
C'est QFD. Kerviel a donc ses fans, pour qui il est un genre de Robin des Bois des temps modernes, devenu le punching ball d'une banque impitoyable. Pour la Société Générale, il est en revanche, je cite les mots exacts, un escroc, fraudeur et terroriste, roi de la malversation, pirate informatique et manipulateur. Lui se décrit comme un innocent hamster dans sa roue, n'ayant eu pour seul objectif que de faire gagner de l'argent à sa banque de cœur. Son histoire commence le 11 janvier 1977. À Pont-l'Abbé, dans le Finistère. Il grandit dans une famille de la classe moyenne. Son père est artisan forgeron et sa mère coiffeuse dans un salon cocassement baptisé, vous allez adorer Stéphane, Monde Imaginaire.
Oui.
Bref, de ces gens dont vous vous amusez hors antenne en vous exclamant...
Ils sont tellement pauvres, on dirait qu'ils le font exprès.
Ça, c'est
exact. Oh,
j'imitais Valérie Le Mercier. Là, vous êtes un peu odieux.
Très jeune, Stéphane.
Là, c'est pas bien.
Non, c'est pas bien, mais c'est drôle.
C'est pas drôle.
Très
parce
jeune.
Parce que vous faites croire des choses qui ne sont pas.
C'est vrai. Et vous imitez si bien Valérie Le Mercier. Ouais. Très jeune, Jérôme et son frère se passionnent pour la bourse. Kerviel a en effet trois passions, la voile, le judo et la finance. Et C'est avec une lucidité certaine qu'il réalise très vite qu'un seul de ses trois hobbies va lui rapporter du blé. Diplômé d'un DESS en alternance back et middle office, Jérôme Kerviel entre en 2000 à la Société Générale en intégrant la division banque d'investissement et de financement. À son arrivée, il est décrit par ses collègues comme discret et taciturne. Très vite, il devient assistant trader, puis trader en 2004, pour finalement l'année suivante intégrer le prestigieux desk des dérivés actions indices. Il se retrouve alors entouré de traders tout droit sortis de Polytechnique, ayant un goût prononcé pour le luxe, la cocaïne, les douches de champagne, le sexe tarifé, leurs convictions profondes.
La misère est vulgaire.
Oui, Jérôme, lui, n'était pas comme ça. C'est un pur Jérôme, un gars simple. Selon ses amis, il ne mène pas grand train. Le loyer de son appartement est de seulement 1200 euros, si je puis dire, et son patrimoine s'élève à seulement 11 400 euros au moment de sa mise en examen. Non, ne vous moquez pas, Stéphane, ne vous moquez pas. Tandis que ses collègues passent leur soirée dans des salles de poker.
C'est odieux.
Là, pour le coup, vous ne relevez pas. Là, c'est vraiment très juste. Oui, là,
j'en avais, j'étais sur le cul, je vais vous dire. Là, j'avais les jambes sciées.
Tandis que ses collègues passent leur soirée dans des salles de poker avec des Lituaniennes à peine majeures sur les genoux, vous savez ce qu'il fait, Gégé ? Un petit billard avec son pote Manuel, ou un petit resto de poisson avec son pote Manuel, ou alors il loue des DVD au vidéoclub avec son pote Manuel. Oui, comme vous le soulignez subtilement, Stéphane, Jérôme Kerviel est chiant. C'est en tout cas pas du tout comme ça que j'imaginais sa vie de trader. Le type arrive tôt au bureau, repart tard le soir, il fume comme un pompier, ne prend jamais de vacances. Entouré de tous ces polytechniciens frimeurs, Jérôme commence à complexer. On lui rappelle en permanence que lui n'a pas tout à fait le même diplôme. Il est trader, ok, mais pas tout à fait comme eux. C'est là que Gégé commence à vriller. Ah bon ? Je suis pas tout à fait comme vous ? Et si je vous prouvais que j'étais meilleur que vous ? Alors, il se dit, comme Stéphane, quand il reçoit le devis de rénovation de la toiture de Tirongardet...
Il faut bien prendre l'argent là où il est.
Stéphane, lui, fait la pub Yellow Camping. Jérôme Kerviel, lui, va prendre des positions dangereuses, astronomiques, des milliards d'euros, en contournant l'ensemble des règles de contrôle, le coquinou. Il espérait apparaître comme un trader d'exception, expliquera le procureur de Paris lors du procès. Il s'en est pourtant fallu de peu pour que l'issue soit heureuse. Fin 2007, Kerviel gagne dans le plus grand secret 1,4 milliard d'euros. Oh, la bonne moula.
Je possède des thunes, je suis à l'aise.
Oh oui, alors là, beaucoup, beaucoup de thunes. Un montant qui enivre notre trader en quête de lumière. Il se met à rincer tous ses potes, les couvre de cadeaux. Au lieu de liquider ses positions, c'est là que Kerviel voit trop gros. Accro au risque, il en veut toujours plus, comme Stéphane au casino de Monte Carlo quand il a déjà gagné 3 millions au blackjack et que je lui dis « Stéphane, allez, on rentre maintenant » et que tu me dis « Ta gueule, le Suisse, on va à la roulette ». Kerviel est comme vous, Stéphane. Impossible à arrêter quand il s'est mis en tête qu'il allait gagner encore plus d'argent. Et c'est évidemment là que tout s'effondre, ses positions décrochent tout en même temps. Le 24 janvier 2008, la Société Générale annonce avoir perdu 4,9 milliards d'euros. La faute à qui ? À Jérôme Kerviel, immédiatement désigné comme le seul et unique responsable de cette débâcle. Le trader fou, le conseil d'administration de la banque se réunit en urgence. Certains proposent qu'on le pende.
On peut aussi l'empaler, lui couper la tête, le brûler, lui arracher le cœur, le démembrer, le faire bouillir dans du vin.
Pourquoi de sa faute ? C'est mathématique.
Pourquoi dans du vin, surtout ?
C'est vrai.
C'est plus douloureux.
Alors qu'il n'avait le droit de s'engager qu'à hauteur de 250 millions d'euros sur les marchés, il va jouer jusqu'à 50 milliards. Or, les fonds propres de la Société Générale atteignent à peine 35 milliards d'euros. Il est placé en garde à vue. Deux jours plus tard, il est mis en examen pour abus de confiance, faux usage de faux, introduction frauduleuse dans les systèmes de données informatiques. En quelques jours seulement, il est passé de parfait inconnu à figure scandaleuse de la finance française. Il fait la une des journaux, même des magazines People. Dès le départ, la France est divisée entre ceux qui lui trouvent des excuses et ceux qui, comme Stéphane, veulent l'embrocher au bout d'une pique trempée dans l'huile bouillante et agrémentée de tabasco. Les deux visages qu'il va présenter successivement devant les juges, à savoir d'abord un grand timide un peu perdu, puis un golden boy insolent en arguant le système, jouera dans ce clivage entre les pros et les anti-Kerviel. Sa défense, il était pris dans une spirale, mais son unique but était de gagner la reconnaissance de ses pairs. Pardon, monsieur le juge. Mais très vite, il prend de l'assurance et commence à montrer les dents. Son attitude change, il devient cassant, lançant par exemple un jour au juge « Décidément, vous n'avez rien compris à ce dossier ». Il faut dire qu'il n'a pas dû aimer le rapport d'expertise psychologique. Je cite « Le vécu dominant de Kerviel est la gratification financière, professionnelle et personnelle. Son intelligence est dans la moyenne supérieure. » Moi, j'espère ne jamais être en procès, simplement parce que je ne supporterai pas qu'un psy évalue mon intelligence. Kerviel n'en démord pas, la Société Générale savait. Elle ne pouvait que savoir. Il envoie au magistrat pour appuyer son propos, un schéma reliant les 67 salariés de la boîte qui, selon lui, avaient été mis au courant du volume des transactions entre 2005 et 2008. En octobre 2010, il est condamné à 5 ans de prison, dont 24 mois avec sursis. Aujourd'hui libre, il intervient comme conférencier dans des événements et il a dernièrement lancé sa newsletter mensuelle où il prodigue ses conseils économiques et financiers. C'est un concept. Et il est aussi comique à mi-temps sur Twitter, où il distille ses punchlines avec régularité, comme en mai dernier au moment de la cagnotte de Valérie Pécresse, si vous en soutenez, quand elle se plaignait d'être endettée à hauteur de 5 millions d'euros. Il lui rappelait avec malice « Je suis endettée à hauteur de 5 milliards, Valérie, ça va bien se passer ». Bon, signalons que c'est plus le cas, hein, depuis la décision de 2016 de reconnaître qu'une partie des torts vient des systèmes de contrôle, voilà, justement, de la Société Générale. La dette de Jérôme Kerviel à l'égard de la banque a été ramenée de 4,9 milliards à 1 million d'euros, ce qui reste une somme, bien sûr, mais beaucoup plus remboursable. À ce propos, Stéphane, ne vous étonnez pas si vous recevez un coup de fil bientôt. Je me suis permis de donner votre 06 à Jérôme. Je lui ai dit, bien sûr que Stéphane fera quelque chose pour toi. Il est hyper généreux.
Merci beaucoup, Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir nos personnages du jour qui ont l'amour du risque.
Pour retrouver deux garçons assez nos limites aussi, notamment Olivier Pouls, qui va loin aujourd'hui, culinairement parlant, puisqu'il nous vante les mérites du boulgour.
Oui, aussi étonnant que ça puisse paraître.
Ça ne me ressemble pas.
Ça ne me ressemble pas, mais c'est bon. Et franchement, il y a plein de choses à faire avec.
Ça colle parfois, parfois.
Pas trop,
c'est
non.
C'est collant.
Bon, si vous le cuisez mal, mais franchement...
c'est peut-être ça aussi.
Mais franchement, c'est très bon, le boulgour. Et puis, vous verrez d'où ça vient, surtout.
On verra l'histoire du boulgour, mais d'abord, on remonte aux origines du ballon de foot, mais pas n'importe lequel, David Castello-Lefèvre. Le ballon de foot noir et blanc, l'originel.
Exactement.
Ici, Europe
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui remonte aux origines de toutes ces choses qui font notre quotidien. Et pour beaucoup d'entre nous, le quotidien, c'est un bon ballon de foot noir et blanc. Le ballon de foot originel, David Castello-Lopez, d'où ça vient?
Vous le savez, au mois de novembre et décembre de cette année 2022, il va y avoir la Coupe du Monde de football au Qatar. Et le ballon qui sera utilisé pendant cette Coupe du Monde, c'est celui-ci. Je vous le montre en studio et je le décris pour les auditeurs. C'est un ballon avec des motifs triangulaires fluo sur fond blanc que je pense qu'on peut qualifier de moche.
Voilà. On peut aller jusque-là. En tout
exactement.
Cas.
Pourquoi il est comme ça, hein?
Ah ça, je ne sais pas pourquoi il est comme ça, mais c'est, en fait, c'est une évolution un peu normale. Les ballons, ils sont de plus en plus colorés.
Il y a plein de couleurs, il y a du jaune, il y a de l'orange, du noir.
C'est tous les pays qui vont être représentés.
Exactement. Il y a peut-être une symbolique, je la chercherai pour vous la dire.
Je pense que c'est pour reprendre toutes les couleurs de tous les drapeaux présents à la Coupe du Monde.
Donnez-moi, je vais vous dire.
Et comme il y a vraiment beaucoup de drapeaux, ça fait à peu près toutes les couleurs qui soient, donc c'est jamais une bonne idée de mettre toutes les couleurs à la fois dans un tableau. Mais en tout cas, c'est le nec plus ultra du ballon de football dans le monde aujourd'hui. Et avant de vous parler de l'objet de cette chronique qui est spécifiquement le ballon blanc et noir, je vais remonter jusqu'aux origines primitives du ballon de football. Tous les ballons du monde, au départ, c'était des vessies de porc qui avaient des formes irrégulières, ce qui n'est pas top pour jouer au foot parce qu'on ne sait jamais exactement comment le ballon va rebondir. Et puis au milieu du 19e siècle est intervenu un monsieur duquel j'ai déjà parlé à deux reprises dans cette chronique, une fois pour le canard jaune en plastique dans le bain, qui est aussi le canard un petit peu sexuel pour les filles, et une autre fois pour les préservatifs. Ce monsieur, c'est Charles Goodyear, l'inventeur du caoutchouc vulcanisé. C'est la troisième fois, j'ai toujours pas compris ce que c'était que le caoutchouc vulcanisé, ce que c'était que la vulcanisation. Mais en tout cas, le résultat de la vulcanisation, c'est que grâce à ça, on a pu fabriquer des objets en caoutchouc de façon beaucoup plus fiable qu'avant. Et le premier ballon qui utilisait une chambre à air en caoutchouc vulcanisé, il date de 1855. Et pendant plus de 100 ans, ça n'a pas trop bougé. C'était une chambre à air donc en caoutchouc recouvert d'une armature fabriquée avec des morceaux de cuir cousus entre eux. Mmh. Et les ballons de cette époque-là, ils n'étaient pas blancs, mais marron. Marron, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'était la couleur naturelle du cuir. Regardez par exemple ce ballon de foot nazi utilisé
aux Jeux Olympiques. Il faut toujours mettre un nazi dans votre chronique.
Exactement. Aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, voyez, je vous le montre ici, c'est un ballon tout à fait marron.
Mais surtout, les coutures sont tellement grosses, ça devait changer le contact du ballon, ça devait vraiment
pas
être bizarre.
C'était pas top. Et ils avaient par ailleurs un énorme inconvénient, ces ballons, c'est que le cuir, c'est pas imperméable. Donc quand il pleuvait, le cuir se chargeait d'eau et le ballon devenait lourd et chiant. Ça a été comme ça jusqu'en 1966. Et pour la Coupe du Monde 1970, Adidas a popularisé un modèle qui reste à ce jour le plus célèbre du monde et que je vous montre ici. Un ballon noir et blanc fait d'un assemblage de pentagones noirs et d'hexagones blancs. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cet assemblage de couleurs? Eh bien, c'était une façon que le ballon soit mieux visible sur les écrans de télévision, qui, à l'époque, étaient encore la plupart du temps en noir et blanc. Le blanc, ça permet au ballon d'être vu clairement en noir et blanc. Et les taches noires, j'ai lu qu'elles aidaient à faire percevoir dans quel sens le ballon tournait. Mais sur ce dernier point, je ne suis pas sûr de mes sources, mais je vous dis quand même l'information. Il n'y a que 20 exemplaires de ce ballon qui ont été utilisés pour la Coupe du Monde en 1970, mais il s'en est vendu 600 000 dans le monde, dans la foulée de la Coupe du Monde. Pourtant, c'est pas resté très longtemps le ballon officiel, puisque dès 1978, c'était déjà plus le même. Il reste que c'est devenu la représentation la plus courante, la plus immédiate, la plus compréhensible d'un ballon de football partout dans le monde. Si vous dessinez un rond sur une feuille, par exemple, sans contexte, ça reste un rond. C'est impossible de savoir que c'est un ballon de football. Et vous rajoutez juste les pentagones noirs et paf, c'est un ballon de football direct. Il y a plein d'équivalents de ce principe dans le dessin, hein, pour plein d'objets. La cigarette, si on veut la reconnaître directement sur un dessin, il faut que ce soit une cigarette avec un filtre. Sinon, ça peut être n'importe quoi. Et c'est pas pour rien non plus que Jerry, de Tom et Jerry, il aime bien l'emmental et pas un autre fromage. Parce que de la même façon, si vous dessinez un cube, ce cube, c'est n'importe quoi. Si vous y ajoutez des trous, eh bien, immanquablement, ce sera du fromage. Donc voilà, le ballon blanc et noir est au ballon de football ce que l'emmental est au fromage. Je pensais jamais prononcer cette phrase un jour, mais je suis content d'avoir fait
cette émission pleine de surprises.
Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Il fut un temps où ces recettes étaient gourmandes, appétissantes, mais voilà. On a fait tellement d'émissions ensemble, Olivier. Il fallait bien un jour que vous abordiez la question, l'épineuse question du boulgour.
Eh bien écoutez, c'est peut-être pas si certain que ça, parce qu'à la fin de la chronique, je vous donnerai une recette, comme tous les jours, et il n'est pas dit qu'elle ne vous fasse pas un tout petit peu saliver et qu'elle ne vous donne pas envie de m'inviter chez vous pour que je la réalise et que vous puissiez la déguster.
Ça, je vais te dire, je préfère de toute façon que tu viennes cuisiner chez moi n'importe quoi plutôt que je cuisine moi-même.
Ouais, mais vous allez voir, ce boulgour, ça peut être maman. Alors, c'est vrai qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, en France, le boulgour, personne ne savait ce que c'était. Ça n'existait pas. Et pourtant, je peux vous dire que ça fait plusieurs siècles que le boulgour existe dans d'autres endroits de la planète. Alors pourquoi n'était-il pas arrivé chez nous ? Bah, mystère. En tout cas, ce qu'on pense, c'est que c'est l'exode des Arméniens au XXe siècle qui a commencé à le faire connaître en France. Et ensuite, c'est la boboïsation dans les années 80-90 avec l'envie d'aller découvrir ce qu'on a appelé, vous savez, les super aliments, des aliments qui sont extrêmement bons pour votre santé, qui ne coûtent pas trop cher. C'est vrai que le boulgour coche pas mal de cases parce qu'il est très riche en fibres, il est riche en vitamines, il est peu cher et surtout, il a ce qu'on appelle un indice glycémique bas, c'est-à-dire que c'est la transformation de l'amidon en sucre, c'est ce que avec l'insuline, et donc au moins au plus l'indice glycémique est bas, au moins votre corps va fabriquer de sucre avec cet aliment. Les pâtes par exemple ont un indice glycémique haut lorsqu'elles sont très cuites et bas lorsqu'elles sont al dente. C'est un truc très intéressant qu'il faut savoir.
Il faut vraiment manger al dente, c'est bon pour la santé.
C'est pour ça que les Italiens mangent leurs pâtes al dente, qui mangent beaucoup de pâtes et qui ne sont pas gros, parce qu'ils mangent les pâtes très al dente. Et quand vous cuisez peu les pâtes, comme visiblement vous, mon cher Mathieu, eh bien, vous avez des pâtes qui sont très bonnes pour votre organisme et que votre organisme ne va pas transformer en sucre, alors que si elles sont trop cuites, c'est le cas.
Le boulgour, c'est quoi ?
Alors, le boulgour, qu'est-ce que c'est ?
Du blé ?
C'est un sous-produit du blé. Ah. Alors, au départ, au Moyen-Orient, puisque c'est là qu'est né le boulgour, il s'agissait d'une manière de conserver le blé de manière optimale. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait pré-cuire les grains de blé. Ensuite, on les faisait sécher au soleil sur les toits des maisons. Et enfin...
Ils ne se faisaient pas bouffer par les oiseaux ?
Visiblement non. En tout cas, on les protégeait. Et ensuite, eh bien, on les débarrassait de ce qu'on appelle le son et on les concassait assez grossièrement. Alors en fait, le boulgour, c'est une espèce d'état du blé entre le blé normal et la semoule. Parce que la semoule, elle est beaucoup plus fine. Mais c'est exactement le même produit. Donc le boulgour est un sous-produit du blé. Il entre dans plein de préparations grecques, tunisiennes, libanaises, mais aussi arménienne. Et aujourd'hui, écoutez, il y a pas mal de façons de le préparer normalement, notamment en salade, en froid. Donc, en général, on cuit le boulgour dans deux fois son volume d'eau avec un petit peu de sel. Vous prenez, vous voyez bien là, ok.
Mais je vois, c'est comme la semoule.
On peut le faire chaud et on peut le faire en dessert aussi. On peut par exemple remplacer la semoule ou le riz pour faire une espèce de riz au lait ou de gâteau de semoule. Mmh. Et moi, je vous propose de faire un gâteau de boulgour jambon fromage.
Oui, ça c'est pas mal.
Vous voyez Alors vous allez me prendre 150 grammes de boulgour que vous allez cuire tranquillement, vous le laissez de côté, vous les goûtez. Une petite échalote hachée finement revenue dans du beurre. Un œuf. un peu de fromage râpé, 50 grammes, prenez du parmesan, du comté, ce que vous voulez, des petits dés de jambon, une cuillère de crème fraîche épaisse, sel, poivre.
Mais ça peut plaire aux enfants, ça.
Bah bien sûr, et puis même aux grands enfants que nous sommes.
Ah, mais bien sûr.
Vous allez mélanger avec votre boulgour refroidi tous ces ingrédients. Vous mettez ça dans un plat que vous aurez préalablement huilé ou beurré de manière à pouvoir le démouler. Et hop, on l'enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. Ce qui fait que vous allez avoir une espèce de gâteau composé par ce boulgour lié avec l'œuf. On l'a pré-cuit. Avec les petits dés de fromage qui vont fondre dedans, avec les petits dés de jambon. Et je vous garantis que c'est très bon. Et d'ailleurs, vous pouvez faire tout simplement une bonne salade de boulgour. C'est un peu plus épais, c'est un peu plus gros comme grain que le couscous.
Mais c'est plus nourrissant.
C'est pas plus nourrissant, mais c'est une texture un petit peu différente.
Eh bien, merci Olivier de nous avoir réconciliés avec le boulgour. Ça faisait longtemps que j'attendais cette réconciliation. Elle est désormais officielle. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Alors vous avez aimé le blé, maintenant vous êtes sur la paille. C'est là que vous risquez de finir, surtout après avoir joué avec l'histoire. Vous êtes prêts à vous affronter, c'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Je commence avec vous, Mathieu. En octobre 2021, vous êtes régalé de mon récit dans Historiquement vôtre sur la drôlerie de Dorothy Parker, cette écrivaine et poétesse américaine de grand talent. Qu'est-ce qu'il y avait écrit, je l'avais dit, sur sa tombe?
Ah non, il faut que je trouve la citation sur la tombe.
Je vous aide. Écrit en tout petit, si vous arrivez à lire, c'est que vous marchez sur mes seins. Ou pardon pour la poussière parce qu'elle s'était faite incinérer.
Pardon pour la poussière. Je me souviens.
Dorothy Parker, avait suggéré cette épitaphe. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'est que personne ne voulait récupérer ses cendres. Elles ont été envoyées chez son avocat qui avait pris sa retraite. Puis un jardin du souvenir a finalement été fait en son honneur. Olivier Pouls. En 1986, on peut écouter Europe 1 quand on se trouve à Paris sur le 104.7. Avant, c'était une radio du nom de Radio Bocal. À qui appartenait cette radio? Daniel Guichard, Yves Mourouzi ou Bernard Hinault?
J'adore mon pieu de Daniel Guichard. Alors, j'ai envie de penser que c'est lui. Je me demande si effectivement... Alors, Claude François, il avait un magazine, lui.
Un podium.
Mmh. Alors, est-ce que Daniel Guichard avait une radio? C'est possible.
C'est la question que je vous pose.
Je veux dire, c'est Daniel Guichard.
Bonne réponse. Radio Vocale a été la première radio à diffuser Femme de Jean-Luc Ley.
Femme, simplement je te dis que je t'aime. T'es comme un soleil.
On le fait ce karaoké de fin de saison ou pas alors?
Ah bah oui, moi je me défonce.
Là déjà vous allez en prison. Mais bon. Sans passer par la case.
Rien que chanter Jean-Luc Ley aujourd'hui, on va en prison direct, vous croyez? Ah mince.
David. Bernard Pivot, avant de présenter Apostrophe, a fait d'autres émissions de télé et d'autres émissions de radio, sur Europe 1 notamment. Est-ce qu'il aurait pu interviewer en radio ou en télé Louis-Ferdinand Céline?
Il a quel âge Bernard Pivot? 85 ans, 90 peut-être?
Pivot?
Oui. Bah oui, il doit être de 1900, car il doit être de la fin des années 30 peut-être, Pivot?
Ah non, il est plus jeune.
Non, il est plus jeune, Bernard.
Ah ouais?
Ah ouais.
Donc il aurait eu...
Je pense qu'il est de 44 ou quelque chose comme ça.
Moi, à mon avis, j'ai la réponse à la question.
44, c'est-à-dire qu'il avait 17 ans.
Lancez-vous, mon grand, lancez-vous.
Ah non, c'est vrai.
Bon, mais calmez-vous, lui donnez pas d'indice.
Non, il est plus âgé.
Ah bah oui, alors 37, ça veut dire qu'il avait 24 ans.
Alors on vous a bien aidé, Daniel.
Oh non.
Bah non. Il a commencé la radio en 1970.
Il avait 42 ans.
Il a commencé en 70 et il a fait sa première télé en 67. Il ne pouvait pas interviewer.
J'ai perdu. C'est pas
désolé. Hein. La question qui va départager Mathieu et Olivier. La Lune s'est formée il y a 4,51 milliards d'années. C'était 60 millions d'années après la formation du système solaire. Si aujourd'hui je regarde la Lune... C'est la lune du passé, le temps que la lumière arrive jusqu'à moi. Voici ma question. Quand je regarde la lune, de combien de temps c'est la lune du passé?
C'est facile. La question est bien formulée, en tout cas. Alors, voyons voir. C'est facile. Pourquoi c'est facile?
Parce que je connais la vitesse de la lumière et je connais la distance à la Lune. Donc
oui, c'est un cadeau. Petite ordure. Évidemment, franchement, je te file un petit billet, tu viens me le dire à l'oreille?
Non, je pense que c'est pas possible. Il y aura de la fraude. Alors, mais je pourrais donner une réponse comme ça pour le
sport. C'est la Lune, il y a la distance. Alors attends, la distance de la Terre à la Lune. 3 secondes.
3 secondes et vous?
Moi je dis 1 seconde.
Je veux dire, c'est moi. Moi je pense que c'est 1/3 de seconde.
1,3.
Ah ouais, putain, t'es plus.
1,3 secondes.
Mais c'est-à-dire qu'elle est à 300
000 km. La lumière, elle est à 390 000 km. Elle met 1,3 secondes pour parcourir la distance Lune-Terre. C'est donc Olivier Pouls qui gagne.
Oh, bravo, ah, ça, c'est pas bien ça. C'est pas bien parce qu'il est en tête déjà.
Plus qu'Olivier Pouls.
Mais il y a des raisons.
Ah, mais lui, c'est calculé.
C'est calculé. Dès qu'on est dans la question scientifique.
Mais vous êtes fort.
Le belge triomphe. Et puis, il savait que Daniel Guichard avait une radio. C'est pas rien. Historiquement vôtre, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission consacrée à ces personnages qui avaient l'amour du risque. Stéphane, vous, c'est quoi le truc le plus risqué que vous ayez jamais tenté, mis à part la fois où vous aviez tiré sur le cordon du gardien?
J'ai jamais rien tenté.
Vous n'avez jamais fait, je sais pas, du deltaplane, du parapente?
J'ai fait une fois ça.
Ça quoi?
Ce truc que vous dites, ou parapente, ou deltaplane.
Parapente?
C'est un truc où vous avez des ailes et vous êtes en haut.
Ah, c'est oiseau.
Quelqu'un qui devait me filmer et ça n'a jamais pu être diffusé. Parce que je n'ouvrais pas les yeux.
Vous aviez trop peur?
J'étais mort de trouille.
Vous étiez avec quelqu'un?
Il y a quelqu'un, mais j'étais mort de trouille.
Ouais,
mais le deltaplane, en plus, si c'est ça que vous avez fait, c'est beaucoup, beaucoup plus dangereux que le parapente. J'ai beaucoup plus d'accidents de deltaplane.
Ouais.
Vous n'aurez jamais dû accepter ça.
Non, je sais. Je regrette encore. J'ai eu la trouille de ma vie.
Bah, oui, je comprends. Mais alors, ces images, elles doivent valoir de l'or aujourd'hui. Les images.
Mais je suis monté à cheval aussi.
Oui, ça, c'est vrai.
Bravo, Stéphane.
Il est monté à cheval, bravo Stéphane. Et,
et à vélo peut-être aussi, non?
Ah oui, j'ai fait du vélo.
Il a fait du vélo intrépide. Et du cheval, il a vraiment vécu pleinement.
Le risque que j'ai pas pris, c'est de monter dans la belle voiture de Mathieu Noël.
Non, c'est trop risqué. Aucun risque, en voiture électrique, tout confort.
C'est très, à 230 sur les routes normandes.
Pas du tout, la bonne nouvelle. Au lieu de dire n'importe quoi, David, la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain. Si j'ai bien compris, il va falloir que je me sape un peu.
Ben oui, Mathieu, sinon vous allez faire tâche. Demain, on réunit de modernes modistes. L'italienne Elsa Schiaparelli, qui s'est fait remarquer à Paris et a collaboré avec un certain Dali aussi. Puis celle qui a associé son nom à celui de la reine Marie-Antoinette, la marchande de mode Rose Bertin.
Et puis moi, je serai sur mon 31, Stéphane. Donc, la preuve, je vous parlerai de la rappeuse et modeuse aussi, Cardi B.
Qui?
Ne soyez pas impatients, je vous la présente demain. À demain Stéphane, à demain les amis.
À demain Mathieu, à suivre, c'est Europe Soir avec Raphaël Delvolvé.